Jean Sibelius. Prochain rendez-vous à 21h30, tout à l'heure en direct également sur Radio Courtoisie, le libre journal de la nuit, dirigé par Paul-Marie Couteau. Notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, 21h30, 23h30, tous les mercredis soirs, le libre journal de la nuit. Et puis tout de suite et en direct, le libre journal du soir, le libre journal de Serge de Becquetch. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 18h. Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Becquetch, diffusé en direct mercredi 21 février 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Résistons, résistons.
Bonsoir.
Non, je croyais que j'attendais la musique. Ouais. Les auditeurs sont partis. Non, cette petite version guigrette d'une marche funèbre de Chopin est destinée à accompagner et à confirmer les propos que je vais tenir maintenant. Je suis choqué, le mot est trop faible. Je suis effondré, accablé, brisé, rompu, déchiré par ce que j'apprends. Le scandale du jour, enfin ça fait deux jours maintenant, mais c'est le scandale. C'est quand même, ça fait l'ouverture de France Intox depuis deux jours. C'est, vous savez de quoi je parle, de la déclaration absolument effroyable, abominable, impardonnable, injustifiable, inqualifiable, pourtant je l'ai bien qualifié, de Jean-Marie Le Pen, disant que le 11 septembre 2001, il s'était produit un incident. Et vraiment, on sent que la totalité de la classe médiatique est littéralement écrasée par l'impudence de ses propos qui n'a d'égal que même ce qu'il avait dit avant dans d'autres circonstances sur d'autres sujets n'atteint pas à la cheville la gravité de ce propos, hein.
Ben oui, Serge,
qu'est-ce
bonsoir.
Qu'il a dit exactement?
Patrick Goffman vous entoure avec Jean-Paul Chérigues d'Olmeta et il faut préciser que... Oui, je vais vous répondre dans un instant. Il faut préciser que notre ami Victorien n'est pas là. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vraiment entendu jusqu'à
oui,
maintenant.
Oui, c'est pas pour ça qu'on a commencé avec la marche funèbre. D'accord. Ah, ouais.
Voilà. Au contraire, on la salue, on lui souhaite une meilleure santé. Voilà. Nous avons les moyens, comme nos confrères...
Les moyens.
Nous avons les moyens d'acheter la croix. Daté de ce mercredi 21 février, et de lire, alors comme d'habitude, un entretien qui est consacré à un tout autre sujet que vous allez dévorer, Serge, parce que Jean-Marie Le Pen remet les pendules à l'heure en ce qui concerne les principes de la laïcité et de l'État laïque qui est le nôtre. Il réexplique, et à la croix par-dessus le marché, ce que c'est que la laïcité. Et puis, il y a un petit encadré dans un coin sur lequel nos confrères se sont précipités, où il parle effectivement de l'incident du 11 septembre 2001. Alors, les journalistes de la croix lui disent « Le 11 septembre est un incident pour vous. Il y a quand même eu 3000 morts. » Réponse de Jean-Marie Le Pen. 3000 morts, c'est ce qu'il y a en un mois en Irak. C'est beaucoup moins que les bombardements de Marseille ou de Dresde à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui étaient aussi des actes terroristes, car ils visaient expressément des populations civiles pour faire capituler des militaires. Je ne sache pas que France Intox, ni nos autres confrères, aient repris la réponse de Le Pen.
Alors, là, on va voir, vous allez voir à quel point ces gens de France Intox sont vraiment des voyous. Parce qu'ils répètent depuis deux jours que Le Pen a dit c'est le nombre de morts en un jour en Irak. Alors, évidemment, ils passent d'une part pour quelqu'un qui dit n'importe quoi. Enfin, d'abord, quelqu'un qui nie l'extraordinaire gravité de 2001. C'est terrible. Il faut quand même pas oublier que il y a à peu près 3 millions de personnes qui meurent chaque année aux États-Unis. Et donc ça veut dire 100 000 personnes par jour, c'est bien ça, je ne me trompe pas.
Hein. Il y a surtout 50 000 morts de morts violentes par an.
Mais en tout cas,
an.
Il y a de morts simplement, il y a 100 000 par jour. Et donc 3 000, ça fait 3%. Oui. Donc effectivement, on voit bien que c'est d'une gravité extraordinaire. Et 50 000, évidemment, c'est 50 000 morts violentes. Mais et ensuite, on nous dit qu'il a dit que c'était le bilan en un jour, alors que c'est le bilan en un mois. Donc là, ensuite, il passe pour quelqu'un qui dit n'importe quoi. Enfin, on le fait passer pour quelqu'un qui
comme
dit n'importe
Ségolène
quoi.
Comme Ségolène qui dit qu'une femme sur trois est tuée par son mari.
Oui, comme Ségolène qui dit qu'une femme sur trois est tuée par son mari. Mais enfin, Ségolène, on a tellement l'habitude maintenant qu'on n'en parle même plus.
Il y a un message qui nous rappelle que M. Gollnisch, passant chez Fogiel, a donné la définition du mot « incident ». Alors, incident, deux points. Événement qui arrive de façon incidente, c'est-à-dire imprévu.
Oui, d'abord, mais enfin là, c'est, il faut dire qu'on vit dans un pays où le vocabulaire moyen est de 250 mots. Alors évidemment, on peut leur faire dire n'importe quoi aux mots. Mais je voudrais ajouter quand même quelque chose qui n'est pas de l'ordre du point de détail. C'est que à Verdun, il y a maintenant 90 ans, il mourait 3000 personnes, 3000 soldats tous les deux jours. Tous les deux jours. C'est-à-dire que le World Trade Center, ça fait en un jour la moitié de... Enfin, ce qui meurt, ce qui mourait en deux jours à Verdun. Mais Verdun, ça a duré combien de temps? Combien de mois?
Plusieurs mois.
Plusieurs mois, oui, comme vous dites.
Un certain temps.
Un certain temps. Et tous les jours, on annonçait la mort de... alors, quand je dis 3000 morts, c'est aussi bien allemand que français. Donc il y avait tous les jours 1500 familles européennes qui apprenaient la mort d'un frère, d'un père, d'un oncle, d'un cousin, d'un enfant. Et on n'a pas vu se déployer le 100 millième de l'hystérie qu'a provoqué le World Trade Center, l'incident du World Trade Center dans le monde entier. Depuis, ça n'a pratiquement pas arrêté, depuis 5 ans. Et moi, je vous prédis que dans 10 ans, on continuera à en parler et qu'il y aura un World Trade Center Day qui sera obligatoire de célébrer dans le monde entier en se mettant de la cendre sur la tête et en se couvrant...
Jean-Pierre Rondeau vient d'entrer dans le studio.
Je suis désolé pour les auditeurs parce que je vais me répéter, mais le 5 juillet à Oran, il y a eu 3000 morts et on est interdit, et je suis en procès, donc j'ai attaqué la décision du préfet, mais le fameux préfet au cochon, hein, nous avons été interdits d'honorer ces 3000 morts et disparus, donc le 5 juillet à Oran, donc... Effectivement, je suis très sensible à ce qui s'est passé aux États-Unis, mais je regarde aussi ce qui s'est passé chez nous.
Ah, vous savez que le préfet Mutz, ouais, le préfet anti-cochon, le casquette...
Ancien officier français.
Oui. Oui, on en connaît d'autres quand même. Si on commence à parler de ça, on va sortir du sujet. En tout cas, il a été approuvé par la Chine communiste, puisque ouais. les Chinois, on a entendu ça, ça a été dit tout à l'heure d'ailleurs sur Radio Courtoisie. Les Chinois le gouvernement chinois a, alors ouvrez les guillemets, demandé aux journalistes de la chaîne des chaînes de télévision d'État, on dit plus rapidement a interdit aux journalistes de parler du nouvel an, de l'année du cochon, pour ne pas blesser les
18 millions
musulmanes.
Qui sont 18 millions, oui, qui s'appellent les Ouïghours.
Apparemment, c'est pas ça. C'est pas tellement les Ouïghours qui intéressent, c'est plutôt le Moyen-Orient pétrolier qui intéresse les Chinois et qui voudraient avoir une espèce d'oléoduc entre l'Iran notamment et la Chine pour ne pas être en danger de perdre la fourniture de pétrole.
C'est merveilleux, ça veut dire que nous n'avons pas le monopole du déculottage.
Non, ben bien sûr, mais le pétrole conduit beaucoup de gens à se déculoter. Et d'ailleurs, je voudrais lancer un appel sur Radio Courtoisie. Si un auditeur connaît très très bien l'affaire Maconine, je voudrais bien avoir des informations. J'ai pas mal d'informations sur l'affaire Maconine. Mais je voudrais bien avoir beaucoup plus d'informations, car c'est une affaire qui me semble absolument passionnante. C'est pas nouveau, hein, Maconine, c'est quand même, ça fait à peu près 50 ans, ça a duré pendant 30 ans, jusqu'à sa mort en 80... Non, les derniers effets de l'affaire Maconine, c'était en 82-83, et c'est l'inventeur d'un carburant à base de charbon, de poussière de charbon, et qui était un carburant qui présentait la particularité extraordinaire d'être ininflammable. Et il est mort dans des conditions bizarres. Le dossier qui était un dossier très 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 complet, qui était, si je ne m'abuse, dans les archives de l'Assemblée nationale, a disparu, il a été vidé complètement, et on a retrouvé à l'époque l'un des personnages qui était chargé de garder ce dossier à la frontière italienne. On l'a retrouvé décapité. En parfaite tenue, il était en costume, il était impeccable, il manquait que la tête. Et je crois me souvenir que finalement l'enquête de la gendarmerie avait conclu un suicide. Je suis pas absolument certain, mais il me semblait bien que c'était une histoire.
Cet auditeur peut vous envoyer son dossier par courriel.
Il peut me contacter
à contact@radiocourtoisie.com.
Non, je préfère qu'il m'envoie au Libre Journal. Libre Journal @news.fr ou 4 Place France Litz s'il utilise le vieux courrier de la Poste.
75-010. 75-010 voilà. Paris.
Mais, alors, je parlais des propos de Le Pen sur le 9-3, le 11-9, pas le 9-3, c'est pas encore ça, sur le 11-9.
Dommage d'ailleurs.
Oui, on peut dire ça.
Le 9-3 a fêté cet événement, mais c'est Le Pen qui est coupable pour avoir dit cet événement, pour ne pas dire incident.
Mais il y a beaucoup plus grave que ça, il a dit encore beaucoup plus grave,
oui.
Car il a dit que à Paris, on pouvait pas chasser le chapon dans le quartier du Marais, enfin on aurait pu le chasser, mais c'était pas recommandé, et qu'en revanche, que les chasseurs, eux, ne pouvaient pas chasser le chapon dans les terres marécageuses et autres. Alors ça, c'est d'une gravité extrême. Pourquoi ? Ben, parce que le chapon n'est pas un gibier. On ne peut pas chasser du tout le chapon, mon cher Jean-Marie Le Pen, parce que le chapon, comme chacun le sait, enfin ceux qui ont mangé de cet excellent animal, c'est un coq ou c'est une volaille mâle castrée. Et on imagine mal les chasseurs castrant les coqs de bruyère avant de les relâcher.
Il faut bien viser, quoi.
Donc ça, c'est très très mal d'avoir commis cette grave erreur devant les chasseurs.
Mais enfin, c'est historiquement bon, dans le marais on chasse.
Oui, mais et on pêche aussi d'ailleurs.
Ah ben on pêche une fois qu'on a réussi à chasser. Oui. Et c'est le fameux système du cruising.
Il a fait cette déclaration avec les chasseurs, c'est pour ça.
Et ouais. D'ailleurs le préfet Mutz déclare la chasse ouverte à Paris tous les ans. Je vous renvoie au journal officiel.
Oui.
Et ça a l'air de vous étonner, mais c'est...
La chasse aux casquettes, comme dans Tartarin de
Tarascon. La chasse tout court est ouverte à Paris tous les ans.
D'accord, c'est très bien. Bon, alors donc, Jean-Marie Le Pen, arrêtez de croire qu'on chasse le chapon. Ouais. Encore que le marquis a une opinion différente. Mais...
Non, c'est une explication.
Une explication. Voilà.
Dans le marais, tout le monde est des chapons sans attribut, c'est encore autre chose. Mais...
Oui, c'est encore autre chose. Bon, si on entre dans ce genre de détails, voilà. On n'entre pas dans le bétail. N'entrons pas dans le bétail. Une autre information qui me paraît fort intéressante, c'est la décision du Conseil d'État de déclarer, c'est une conseil constitutionnel, Conseil d'État, je finis par plus savoir, enfin une de ces sinécures où des vieillards, gratouillards prennent du fric en faisant absolument n'importe quoi.
Les jeunes aussi, Juppé, souvenez-vous, son départ à la retraite, Conseil d'État.
C'est pour ça. Oui, les jeunes, Juppé.
Bah non, mais à l'époque.
Il est tellement vieux.
Il ne s'agit pas d'être vieux pour toucher.
C'est les sans-papiers qui vont en préfecture, c'est ça, non ?
Voilà, c'est ça. Alors, interdiction d'arrêter les sans-papiers quand ils se présentent à la préfecture parce que c'est déloyal. Alors, j'aime bien parce que, voilà, on vit dans un pays où, si vous voulez arrêter les sans-papiers qui sont des délinquants, je rappelle quand même que ce sont, quand on dit des sans-papiers, c'est une terminologie que je récuse. Ce sont des hors-la-loi, ce sont des délinquants. Bon, parce qu'ils sont dans un pays où ils n'ont rien à foutre, on ne leur a pas demandé de venir, ils n'ont pas le droit d'y être, ils n'ont pas le droit d'y rester, et ce sont des parasites qu'il faut virer, quoi, tout simplement. Bon, voilà, c'est aussi clair que ça. Eh bien, donc pour les virer, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de les prendre d'abord. Pour les prendre, le bon Pandore de base, il dit, on va les attirer dans un piège. On va leur envoyer une convocation, comme ça ils vont venir, et on les arrêtera. Alors les gars, ils reçoivent la convocation, ils viennent, enfin les plus cons quand même, parce que les autres ceux qui ont autre chose que du fromage blanc dans la boîte crânienne, ils se disent, il y a peut-être un petit truc qui ne va pas. J'y vais pas y aller. Et donc, ils n'y vont pas. Mais les cons, ce qui est toujours intéressant d'ailleurs, parce que moyen de combien on se porte, ils y vont. Et là, le Pandore leur dit, ah, tu es pris, je te reconduis à la frontière. Et on le reconduit à la frontière. Alors là, il y a toujours un juge qui dit, mais non, il ne faut pas, rendez-le.
Pas beau.
Remettez-le en liberté jusqu'au procès. Et au procès, il est convoqué. Et là, à la surprise générale, il n'y va pas. Ou alors le très con. Ça, c'est, on finit par écrémer. Et à force d'écrémer, on arrive à expulser vraiment les imbéciles, ceux qui n'ont rien compris au film. Et alors le conseil de je ne sais pas quoi a dit que c'était très très mal et que c'était déloyal. En revanche, quand vous avez une paire de Pandores qui se planque dans une voiture banalisée à la sortie d'un virage et qui vous verbalise parce que vous roulez à 52 km/h au lieu de 50, ça c'est pas déloyal du tout, ça c'est très bien. Hein ? Donc il faut choisir. Hein ? Il vaut mieux. Alors dans ce cas-là, truc. C'est quand on vous arrête dans votre voiture. Je vais vous donner le truc, parce que ça marche très bien.
Jusqu'à la préfecture.
Non, il faut dire, mais moi je suis sans papier. Vous prenez un accent, n'importe lequel, le plus improbable possible. Vous savez, comme un monsieur Zloty dans... comment il y a Laszlo Zlot dans Achille Talon.
Et si on a les mains pleines
pas,
de sang...
Je n'ai pas papier à voir, transporte à la préfecture. Et alors là, à la préfecture, vous dites, je arrête déloyal, je liberté veut, et on lui dit...
Mais comment on est sans papier ? Parce que pour la CMU, par exemple, comment on sait qu'on est sans papier ?
Ben vous allez, vous dites vos papiers.
On vous fait un papier.
Alors, je n'ai pas de papier, monsieur. Bon, on va vous faire un papier.
Voilà.
Est-ce que c'est pas encore mieux, Serge De Vecchia, si on a les mains pleines de sang, puisque M. Sarkozy a fait voter l'interdiction d'expulser les criminels étrangers ?
J'ai pas compris, pardon, j'étais en train de dire une question.
Plutôt que de se vanter de ne pas avoir de papier en face des autorités, ce qui est très bien, je vous le concède, est-ce qu'il serait pas encore mieux d'avoir les mains pleines de sang, puisque M. Sarkozy a fait interdire l'expulsion des criminels étrangers ? Et si on a le sida en plus, ou, est-ce que c'est pas mieux ?
Oui, si, peut-être. Les mains pleines de sang, c'est un peu cochon quand même. Alors, qu'est-ce que... Non, ça, c'est un imbécile qui... On ne lit plus les messages des imbéciles. Je le dis maintenant.
Ah, bravo.
Ça repose.
Il y en a marre, c'est toujours les mêmes.
C'est toujours le même, en l'occurrence.
Les mêmes imbéciles.
Alors, là, en revanche, il y a une vraie question. Monsieur De Wicket, est-il toujours convaincu que l'attentat du World Trade Center est l'œuvre de la CIA et du Mossad, comme d'ailleurs, selon lui, l'assassinat de Monsieur Hariri au Liban? La réponse est oui. Oui, oui, archi oui, super oui, positivement oui. Il y a maintenant à peu près toutes les preuves nécessaires que l'attentat du World Trade Center a été fabriqué de toutes mains par par certains services américains. Alors la CIA, ça veut rien dire. Et par certains services israéliens, le Mossad non plus. La CIA, le Mossad, c'est devenu des systèmes pratiquement officiels, quoi. C'est des marques déposées qui cachent la réalité de certains services, mais il y a des preuves surabondantes. Si au lieu d'écouter Radio Courtoisie, vous regardiez un peu sur le net, il y a un formidable reportage qui dure 1h30, un reportage vidéo qui montre, qui accumule les preuves que le World Trade Center est un truc qui a été monté de toutes pièces. Et vous seriez comme moi convaincu, c'est l'évidence même. J'ajoute d'ailleurs que ça va probablement, et ce sera la suite de notre revue de l'actualité, ça va probablement être la même chose avec l'Iran, puisque monsieur le secrétaire d'État, enfin l'ancien secrétaire d'État US, Brzezinski, a déclaré le 1er février dernier au Sénat, devant le Sénat américain, que l'Amérique du président Bush préparait une provocation de nature à justifier contre l'Iran, une attaque nucléaire préventive, dans la tradition de ce qui s'est passé, de ce que font les Américains toujours. Guerre d'Espagne, Pearl Harbor, qu'est-ce qu'il y a encore, Lusitania, et le 11-3. C'est un moyen pour eux de déclarer des guerres.
L'Irak.
L'Irak, voilà. C'est un moyen de déclarer des guerres qui sont des guerres de la démocratie contre les totalitarismes et les fanatiques. L'axe du mal, ou le camp du mal, ou vous appelez ça comme vous voulez. Alors Brzezinski a dit ça, il a dit carrément qu'il fallait préparer une provocation qui justifierait une intervention contre l'Iran. Et je crois, moi, personnellement, que cette intervention va avoir lieu assez rapidement. Je ne suis pas le seul de cet avis, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ça va se faire, pour diverses raisons, qui sont tout simplement la nécessité pour les États-Unis, d'une part, d'élargir le champ de bataille, parce qu'ils sont complètement embourbés en Irak, d'autre part...
Un autre pied en Afghanistan, donc il est urgent de mettre une main en Iran.
Oui, je pense réellement que c'est ça. Et d'autre part, de forcer... En ce moment, il faut savoir quand même que les Espagnols sont en train de se retirer, les Italiens vont se retirer, les Allemands se retirent...
Et même les Anglais.
Les Anglais se retirent, et que, bien entendu, le Danemark se retire aussi, et qu'il faut justifier une reconsolidation. Entrez, Jean-Pierre Petit, je vous en prie, asseyez-vous, ou mettez-vous là si vous voulez, ou là, comme à l'endroit que vous préférez. Donc j'informe les auditeurs que Jean-Pierre Petit, qui est directeur de recherche au CNRS, et qui est un spécialiste des objets volants non identifiés, mais d'une façon un peu particulière, on va en parler tout à l'heure, vient de faire son entrée parmi nous, c'est pas la première fois qu'il vient nous voir. Donc je disais que, pour toutes ces raisons, il est très probable que une attaque contre l'Iran aura lieu.
Ça peut se discuter, Serge, parce que rappelons quand même que 64% des Américains sont opposés à la guerre en Irak,
oui.
Et que la Chambre des représentants vient de voter une motion hostile.
C'est vrai, et Bush a dit qu'il n'en avait strictement rien à foutre.
Bien sûr, mais il arrive au bout de son mandat, et peut-être que quand même les...
Mais comme il ne peut pas faire un troisième mandat, il s'en fout encore plus. Parce que maintenant, ce qu'il prépare, c'est son recasage. Et il faut quand même qu'il donne des gages à ceux qui l'ont employé pendant 8 ans pour qu'il continue à l'employer à d'autres activités maintenant. Hein, parce que ces gens-là, ils payent pas pour rien. Donc je pense que le danger est très très grave, il est très réel. Mais le plus grave danger, de cette affaire de menace de guerre américaine en Irak, en Iran. Elle est résumée par Nicolas Doinal dans un article du Libre Journal à paraître aujourd'hui et en vente demain dans toutes les bonnes librairies, c'est-à-dire les trois bonnes librairies de Paris, intitulé « Élection pestilentielle », où il explique que si la guerre éclate, Chirac se présente. Et les Français sont tellement, inquiets, hein, inquiets en trois lettres.
C'est ça. Ouais.
Voilà. Qu'ils sont capables de les lire.
Oui,
pour un troisième tour. Alors là, c'est. Là, moi, je préfère carrément la guerre nucléaire mondiale. Vous imaginez, Jean-Pierre, faire un troisième tour avec l'escroc?
Bah, écoutez-moi, j'ai presque plus peur de Sarkozy, donc voilà.
Oui, moi aussi. Oui, c'est vrai, l'avantage de Chirac, c'est qu'il nous aimait très Sarkozy.
Bon, Sarkozy, je peux faire une insiste. Il y a un auditeur qui nous dit que, à l'occasion de l'année du cochon, la Poste avait prévu d'émettre un joli timbre. Avec
elle n'a pas prévu, elle l'a émis. Il est à la une du Libre Journal numéro 399. Ouais.
Virgule. Et à la demande du Conseil musulman français, enfin le truc inventé par Sarkozy, Sarkozy a demandé au Conseil d'État de prévoir qu'on retire ce timbre. Point.
Oui. Mais c'est vrai parce que cette histoire a commencé par un hoax, comme on dit quand on est internaute, c'est-à-dire par un truc faux qui a été balancé sur Internet avec des signatures balourdes et ça avait provoqué un premier émoi. Alors est-ce que c'est confirmé ou pas?
C'est un auditeur qui nous dit que M. Sarkozy a saisi le Conseil d'État pour faire interdire la distribution par la Poste de ce timbre.
Ouais, mais ça serait drôle. Ouais. Moi, j'espère que c'est vrai parce que il faut se précipiter dans les postes pour acheter le timbre. Jean-Pierre Petit.
J'étais à Pékin là, il y a 4-5 jours et c'est l'année du cochon, là, donc etc. Et ben oui, vous avez vu, ils ont préféré mettre la pédale douce.
On l'a dit dans la.
Ils ont mis la pédale douce sur les timbres, non?
De le dire il y a 5 minutes. Mais sur le cochon en général, pour ne pas enquiquiner le. Ah oui, non, il y avait un mot.
Oui, enfin, une tentative, mais bon, je retire parce que.
Oui, d'accord. Pendant que j'avais la parole, je peux dire un mot sur un truc d'actualité. Il y a un film remarquable.
Pour ne pas sortir du cadre.
Pardon ?
Pour ne pas sortir du cadre.
Il y a un film remarquable, enfin, en tout cas pour moi, qui vient de sortir, qui s'intitule Le dernier roi d'Écosse. Alors, on a un auditeur qui dit c'est la vie d'Amin Dada sous ses aspects les plus beaux, alors que c'était un tueur, n'est-ce pas du négationnisme, alors que Gollnisch a été poursuivi pour négationnisme. Ben non, c'est pas du négationnisme, puisque ce film est tiré d'un roman, c'est écrit gros comme ça, roman, et que Amin Dada est un des personnages du roman, c'est un personnage de fiction inspiré par un personnage vrai.
Mais,
et notre auditeur n'a pas très bien vu le film, parce que...
Il est extrêmement sympathique, il y a Amin Dada.
Déjà, oui, et puis il y a quand même des moments dans le film où il n'est pas sympathique, je veux dire, donc, mais rassurons-le, c'est pas du négationnisme, c'est une fiction.
Voilà. Moi, j'avais beaucoup aimé le film de... comment s'appelait ce réalisateur américain qui a un nom allemand ou allemand
qui avait fait un truc sur Amin Dada aussi. Oui, oui,
où alors on voyait comment...
Barbet-Schroeder,
c'est ça. Alors on voyait dire Amin Dada qui faisait la course dans une... Il est français.
Barbet-Schroeder, oui.
Il est français. Ça s'appelait Général Amin Dada.
Comme vous disiez américain, c'est ça qui me troublait. Non, mais il est français.
Ah bon, je retire alors. Mais en tout cas, je me souviens de la scène où Idi Amin Dada fait la course dans la piscine avec ses ministres qui leur cassent la gueule pour arriver le premier. C'était très rigolo.
Bon, c'est une image de la politique.
Ah, c'est un documentaire, ça.
Oui, c'est un documentaire. C'est un documentaire. Il y avait aussi... alors, je ne sais pas si c'est pour le film de Barbet-Schroeder ou pour un autre film qui s'appelait Mondokane, où il avait fait fusiller des gars. Et le réalisateur du film lui dit votre Excellence a prévu de faire exécuter les opposants dans 3 jours, mais mon équipe est obligée de reprendre l'avion parce qu'on a les billets demain soir. Est-ce que vous pourriez avancer l'exécution de 2 jours? Alors, il a dit, si ça t'a fait plaisir, on va les faire. Et alors, ils ont donc avancé l'exécution de 2 jours, et la scène de l'exécution qu'on voit à l'écran était vraiment une des scènes les plus surréalistes que j'ai vues de ma vie, parce que on voit arriver le peloton d'exécution, et les mecs sont en tenue camouflée, avec des branchages dans les casques. Probablement pour que les fusillés ne les reconnaissent pas.
Prise de vue ou pas, ou ils ont refait la scène de
vue. J'espère qu'ils ont eu bon pour la première fois, parce que... Enfin, voilà, on en s'ennuie. C'est un monde où on ne s'ennuie pas, finalement. Vous voyez, on ne sera pas mécontent de le quitter, mais on passe,
hein. On n'est pas pressé.
Il n'y a pas urgence.
Il y en a un qui vient d'être débarrassé, par exemple. Il y en a un qui vient de le quitter. Ce monde-là, c'est mon excellent camarade Maurice Papon. Moi, j'aime bien Maurice Papon pour une raison très simple. Je vais vous dire laquelle. C'est que Maurice Papon, c'est le type même du fonctionnaire toute main. Il était fonctionnaire zélé pendant l'occupation, fonctionnaire zélé pendant la libération, l'épuration, fonctionnaire zélé pendant le gaullisme, fonctionnaire zélé sous Giscard, sous Pompidou, il a toujours été un fonctionnaire zélé. Et j'ai toujours dit que s'il y avait eu un régime soviétique en France, il serait devenu un implacable fonctionnaire soviétique.
Bon, vous alors, avez contrarié Philippe de Villiers et ceux de nos auditeurs qui l'aiment, puisque Philippe de Villiers vient de se mêler au cœur des insulteurs qui crachent sur les tombes.
Ah bon, oui, je préfère quand même, je comprenais pas ce que vous me disiez. Alors, moi, je crache pas du tout sur sa tombe, je dis, je l'aime bien parce qu'au moins avec lui, on sait où on met les pieds. Hein, il n'y a pas, il n'est pas ambigu, quoi. Il est clair, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui commande, c'est vous, vous êtes le meilleur, dit-il.
Vous vous m'accorderez que jusqu'au bout, il a quand même été relativement résistant.
Vous savez, pour connaître, à 96 ans, il y a peu de résistants qui ont été aussi résistants que lui. Et alors, jusqu'au bout, et il y a quand même quelque chose qui me plaît, c'est qu'il s'est fait enterrer avec sa Légion d'honneur.
Ça, c'est bien, ça.
Alors, les gens disent... alors, il y a des mecs qui sont allés en disant, on va le déterrer, on va lui retirer sa Légion d'honneur. Il faudrait quand même savoir que la Légion d'honneur, c'est devenu... c'est rien, ça n'a plus aucun sens. Parce que la Légion d'honneur, maintenant, on la colle à n'importe quel saltimbanque. Le dernier qu'il ait eu, j'ai rien contre lui, je m'en fous, c'est un histrion,
c'est pas un histrion, Serge, peut être sérieux.
C'est un histrion, c'est un histrion.
Oui,
c'est un comédien, c'est-à-dire c'est une coque vide, il n'a pas d'âme. Les comédiens n'ont pas d'âme. On sait ça depuis Molière. Alors donc, on lui a collé. Heureusement qu'on l'a pas fait un trou dans la poitrine, parce qu'il serait vidé, il serait envolé comme un ballon de baudruche concrète. Mais si on donne la Légion d'honneur à Clint Eastwood, comme on l'a donné à Rico Machias, ou à qui encore? On l'avait donné à Segui.
À Zavatta.
Je vois pas pourquoi on la donnerait pas à Papon. Et il s'est fait enterrer avec. Alors il y a des gars qui disent il faut le déterrer pour récupérer la Légion d'honneur.
Et le fusiller pendant qu'on y est.
Pas tant qu'à faire, on pourrait le fusiller aussi d'ailleurs. Mais je rappelle quand même que l'État, dans son infinie générosité, quand il donne la Légion d'honneur, il donne un bout de papier sur lequel il est marqué vous avez le droit d'avoir la Légion d'honneur. Et vous avez donc le droit d'aller chez... Marquis, où est-ce qu'on achète la Légion d'honneur?
Lille, Maristoire, et puis l'autre fabricant.
Artus,
voilà.
Voilà. Vous allez là-bas et vous dites, je voudrais la Légion d'honneur. On vous dit, vous voulez la Légion des pauvres ou la Légion des riches? Je préfère la Légion des riches parce que c'est 4000 balles. Donc vous l'achetez, oui, minimum, hein. Ah, mais avec du vrai or, du vrai vermeil, c'est beau, hein.
Oui, mais ça, c'est seulement à partir du grade de grand officier. En dessous,
ah bon,
c'est pas comme ça.
C'est moins cher?
Oui.
Bon. Et alors, donc, il voudrait aller lui piquer, non content, il a essayé de lui piquer son fric, parce qu'il veut lui piquer sa médaille qu'il a gardée. Bon.
Alors. Qu'il lui avait remise.
Je voudrais juste dire que...
Rien que ça, déjà, c'est suspect.
Jean-Pierre Rondeau.
Donc, je n'avais pas une très grande estime pour lui, et y compris par le fait qu'il a été un combattant virulent contre les gens de l'Algérie française.
Ah, évidemment, il était au pouvoir.
Mais voilà, au pouvoir. C'était, donc, c'est un gaulliste, il faut le rappeler. Mais néanmoins, j'ai un des intervenants sur Radio Courtoisie qui est un prêtre l'a visité assez souvent pendant les dernières années et le trouvait extrêmement courageux et donc voilà, donc je tiens aussi à saluer ça.
Mais est-ce qu'il est possible?
Mais Le Pen a dit Papon est un beau commissaire.
Est-ce qu'il est possible?
Ah non, un bouc émissaire, pardon.
Est-il possible de parler de cette émission de télé dont vous nous parliez hier en privé et de ce que M. Papon racontait le cas de Chirac?
Ça, c'est effectivement.
Est-ce qu'il vaut mieux le censurer pour éviter.
Pourquoi?
Non, c'est extrêmement intéressant.
C'est une vidéo, ça passe sur Internet. Vous allez sur YouTube.com, c'est ça, hein, YouTube.com. Et dans le système de recherche, vous tapez Papon, P-A-P-O-N.
Bon. Papon, papon.
Merci, c'est bien. Normalement, c'est moi qui aurais dû le faire.
Ma fille disait pimpon.
Et alors, là, vous voyez arriver une vidéo qui a été tournée par ses amis et dans laquelle Papon raconte la chose suivante. Mais il faut dire qu'il raconte ça, il a 95 ans, donc c'est forcément pas vrai, parce qu'à 95 ans, on commence à
déjanté un peu. Et alors donc il dit voilà, quand j'étais au cabinet, enfin plutôt dans l'équipe électorale de Pompidou au moment de la présidentielle qui devait conduire Pompidou au pouvoir, on avait reçu un message de l'ambassade d'Arabie Saoudite nous disant qu'il tenait à notre disposition pour financer la campagne du président Pompidou une mallette de dollars.
Déjà, ça, c'est pas possible.
Première chose, c'est pas possible.
Pourquoi pas des mallettes venant d'Afrique?
Oui, n'importe quoi.
Pleine de subventions.
Et alors, le Pierre Juillet dit à Papon, vous allez aller à l'ambassade d'Arabie Saoudite et vous allez rapporter la mallette de... Ça, c'est toujours Papon qui raconte. Et la mallette de dollars. Alors, il va à l'ambassade d'Arabie Saoudite, il avait pris rendez-vous, et quand il arrive, le type lui dit, ah non, il y a déjà quelqu'un qui est passé pour prendre la mallette. Ah bon, dit Papon, mais qui? Ben, monsieur Jacques Chirac, qui était à l'époque un tout jeune, je ne sais pas quoi, rien du tout, quoi, sous-secrétaire d'État... à la sous-fonction publique, et alors...
Les bains trop chauds.
Et alors, Papon raconte qu'il est rentré et qu'il a dit à Juillet, ben, moi je rapporte rien parce que y a un monsieur qui est passé avant moi, monsieur Chirac qui est passé, qui a pris le paquet de billets, et voilà, j'en suis bien désolé, mais c'est comme ça. Alors Juillet est allé voir Pompidou en lui disant, monsieur le président, c'est embêtant, mais voilà, la mallette, on l'aura pas parce que Chirac l'a déjà piqué. Et alors Pompidou aurait dit, tout ça étant faux bien entendu, hein, on est bien d'accord, hein, d'abord c'est raconté par un type qui était pas recommandable, il a dit bon ben il faut laisser tomber, on va pas faire de scandale pour $1 million, ça vaut vraiment pas la peine d'ailleurs, donc passons à autre chose. Voilà, mais si c'était vrai, ça serait quand même assez grave, hein. Heureusement que c'est pas vrai. Bon, voilà, quand Victoria n'est pas là,
c'est le bazar.
Souridance.
Aurait-elle démérité? Ah oui, j'ai viré Victoria. Oui, j'ai viré.
Voilà, absolument. Descendez, on vous demande.
On a mis aux voix.
On avait marre d'avoir une femme.
Alors le marquis a dit non, il faut la garder. Rondeau s'est abstenu comme d'habitude.
Je me suis jeté à vos pieds en sanglotant.
Hoffman s'est jeté à mes pieds en sanglotant en disant c'est pas possible, vous pouvez pas. Eh bien si, j'ai dit voilà, c'est fini. Bon, cela dit, on l'embrasse quand même et on lui souhaite de se remettre rapidement parce que sa voix mélifluent.
On peut dire que Jacqueline n'a pas démérité puisque c'était la question.
Jacqueline.
Ben oui, puisque le message vous dit pourquoi Jacqueline ne remplace-t-elle pas Victoria? Alors, va-t-elle démériter?
Jacqueline, elle a d'autres fonctions dans cette maison pendant cette émission.
C'est elle la messagère des dieux, elle arrive avec les messages.
Exactement, ça n'a rien à voir avec un déméritage quelconque.
Personne ne l'a démérité en quoi que ce soit.
Téléphonez-lui.
Je comprends mal votre raisonnement, les Américains sont militairement embourbés en Irak, pourquoi auraient-ils s'embourbés en Iran?
C'est pourtant bien expliqué.
Eh bien, pour une raison que Edgar Faure expliquait. Déjà, à l'époque, il y a donc 50 ans, quand une affaire est compliquée, pour en sortir, il faut la compliquer encore plus. Donc, si vous avez une guerre embourbante en Irak, vous faites une guerre nucléaire en Iran, et plus personne ne parle de la guerre embourbante en Irak, et vous pouvez retirer vos hommes en disant, on en a besoin en Iran. Voilà.
Vous l'aviez clairement expliqué il y a 5 minutes.
Oui, mais vous savez, l'auditeur, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, n'écoute
n'entend pas.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre encore? Ah oui, je vais dire du mal. Non, je ne sais plus. Oui, on va dire du mal.
Si,
émission. J'ai écouté l'autre jour.
Ah oui.
Je dois dire que je suis assez, scandalisé, mais enfin choqué. Heurté par les propos qui ont été tenus à cette antenne, pas par les propos, mais par la personnalité qui a tenu ces propos. On a entendu un homme jeune, apparemment,
sur Radio Courtoisie,
expliquer que Darwin était vraiment un plus grand génie et que les créationnistes étaient des demi-fous. Alors moi, qui suis créationniste, ça m'a foutu en colère. Et ce qui m'a foutu encore plus en colère, c'est que ces propos étaient tenus par un dominicain. Alors s'il était logique avec lui-même, il devrait construire un petit bûcher, se poser dessus et foutre le feu. Parce qu'il faut quand même savoir que les dominicains, ça a été les principaux fournisseurs des bûchers de l'Inquisition. Dieu soit loué et frère Dominique en soit remercié. Mais on ne peut pas dire que la succession soit brillante. Mais ce que je voudrais dire surtout, c'est que il faut faire très attention. Vous savez, ça c'est par rapport à Radio Courtoisie. J'ai remarqué une chose. Depuis quelque temps, j'écoute beaucoup la radio parce que je circule beaucoup en voiture, pas pour mon plaisir, et j'écoute beaucoup Radio Courtoisie. Or, j'ai remarqué qu'il y a des gens. Je peux donner des noms.
Hein, oh oui.
Oui, vous voulez quand même. On verra peut-être. Si vous êtes ça, je donnerai peut-être des noms. Il y a des gens, quand vous les entendez à l'extérieur, c'est des foudres de guerre. Par exemple, M. Millière. Monsieur Millière, quand il est à l'extérieur, il dit que Radio Courtoisie, c'est une radio nazie. Carrément, quoi. Que c'est une radio de racistes.
Il l'écrit,
etc.
Même.
Il l'écrit.
En anglais.
Mais quand il est à la radio, il trouve Radio Courtoisie formidable. Hein.
Soyons précis. Hein. Il l'a écrit sur un site américain en pensant qu'il était le seul à savoir lire l'anglais.
C'est ça, oui.
Guy Millière.
Bon. Et donc, les gens ne tiennent pas les mêmes propos quand ils sont à notre antenne et quand ils sont à l'extérieur. Ça, je veux bien. Mais il faut quand même essayer que ça soit un peu cohérent. Alors, sur Radio Courtoisie, le frère Jacques Arnoul, qui n'a rien à voir avec le Kapellmeister du chœur Montjoie-Saint-Denis, c'est simplement le même nom, quoi. Et puis probablement qu'ils n'ont pas la même religion. Et donc le frère dominicain Jacques Arnoul, sur Radio Courtoisie, il a expliqué que les créationnistes, oui, bon, c'était intéressant, que l'intelligent design qu'on appelle, ou le dessin intelligent, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une intelligence supérieure qui apprécie... présider à la création et à la naissance du monde et de l'univers et de l'humanité, c'était intéressant, mais à prendre avec précaution, il faut réfléchir, il faut en discuter, etc. Donc il était très, très arrangeant, finalement, très bien élevé, très poli. Et puis là, il publie dans le Nouvel Observateur, qui n'a que peu de relations avec Radio Courtoisie, un papier d'une violence, mais incroyable, disant que c'est une menace, que ce sont des fous, que ce sont des sectaires qui veulent créer un mouvement fondamentaliste, théocratique. Et naturellement, il nous fait le système, il nous fait le vieil amalgame entre les catholiques traditionnalistes et les musulmans fanatiques. Hein. Donc,
rappelons pour les nouveaux auditeurs ou peut-être les Japonais qui nous écoutent à Tokyo que le dogme de la création est tout au début de la Bible et donc ce frère dominicain est en train de cracher dans sa soupière.
Dans sa soupière. Mais apparemment il n'a pas lu la Bible ou alors je sais pas. Enfin il a peut-être sauté les premières
pages. C'est toujours vexant. Vous savez c'est comme quand Monseigneur Gaillot se fait interviewer page après page dans Playboy. Alors ouais. Moi j'achète Playboy. C'était je pas crois décembre Gaillot. 92. Ah c'était pas pour Gaillot. C'était pour observer des physionomies un peu plus rebondies et optimistes. Et je tombe sur la triste figure de Gaillot. Qu'est-ce qu'il fait là? Ce dominicain, s'il n'aime pas le dogme de la création, pourquoi est-ce qu'il m'arrache la parole? Moi, j'y crois pas à la création. Et il m'arrache la parole pour, lui, dominicain, le dire à ma place.
Si vous étiez malin, vous seriez comme moi, vous seriez créationniste. Comme ça, vous lui piquez son bifteck.
Chacun à sa place, quoi.
Alors, il a des arguments, en plus, qui sont intéressants. Il a dit... Un jour, le secrétaire général de l'UIP, vous savez ce que c'est son nom, Jean-Pierre Petit, l'UIP.
Oui, je connais, c'est le truc de Jean Stone. Oui.
Voilà. Ouais. M'a invité à rejoindre son camp en me disant qu'il me proposait une Ferrari, entre parenthèses le dessin intelligent, pour attirer plus vite de nouveaux fidèles. Pardon. C'est une ficelle pour avoir des fidèles en quelque sorte. Je lui ai répondu que le Christ était bien entré dans Jérusalem à dos de mule, lui. Mais... Où est le message biblique dans tout ça? Mais une mule, c'est une espèce d'âne, non?
Bah, priori,
de qui il parle
il est entré sur un âne.
Oui. Alors en plus,
ah, c'est un réviso.
Un ânon en plus.
Et moi je le sais. Et vous aussi. Et tout le monde le sait, sauf le dominicain.
Ce dominicain ferait mieux de s'occuper de lire la Bible et le Nouveau Testament.
Il y a une version BD dans mon site. Hein. Il a qu'à aller la lire.
Oui, voilà. J'ai qu'à la lire. Voilà, exactement.
Ça c'est plus accessible.
Voilà. Bon, je voulais c'était simplement pour dire du mal d'un dominicain. Et c'est assez rare.
De Bekesh, j'ai été en contact avec des dominicains quand j'ai fait cette Bible en bande dessinée.
Ouais.
Et effectivement, quand je suis tombé sur Isaïe, il y avait Isaïe 1, Isaïe 2, puis il y avait quand même pas mal de distance entre les deux. Je comprenais pas très bien. Alors je suis allé à la cathédrale d'Aix, puis j'ai visé un dominicain. Je lui ai dit j'ai des problèmes. Avec la Bible. Et là, il a commencé à la lire, il trouvait ça formidable. Et là, j'ai été invité au couvent Saint-Jean de Malte. Et ils ont commencé à lire ma Bible. Et j'ai été obligé de leur filer des exemplaires. Et deux ou trois mois après, il y a eu un débriefing. Et j'ai été invité à bouffer au couvent Saint-Jean de Malte avec tous les dominicains. Alors, il y a le plus âgé qui a dit, j'arrive pas à comprendre qu'un laïc a fait un travail pareil. Et il y en a d'autres qui ont dit, bah, en tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs.
Ah, c'est formidable.
Je peux raconter une autre anecdote de Bible. Le prédécesseur de Monseigneur 23, là, vous allez Monseigneur Lustiger, voilà, passe un jour à apostrophe, c'était il y a une quinzaine d'années, et on venait, on, je sais plus quel gros éditeur venait de publier une Bible absolument spectaculaire, quasiment gravée à la main, et, etc. Et donc il arrive et Pivot lui dit, ah, monseigneur, permettez-moi, j'ai reçu cette nouvelle Bible luxueuse incrustée de diamants, permettez-moi de vous l'offrir. Et Lustiger, au lieu de sourire et de remercier, il dit, sur un ton aigre, quand je pense qu'au Salon du Livre, il y a 15 jours, l'éditeur m'a promené, m'a traîné sur 500 mètres pour me mettre cette Bible sous le nez, et qu'il faut que ce soit vous qui me l'offriez, c'est quand même un scandale.
Alors, un auditeur, une auditrice dit, je fais sûrement partie des imbéciles. Non, madame, les femmes ne font absolument pas partie des imbéciles, dans aucun cas dans ma famille. Je fais sûrement partie des imbéciles. Mais j'aimerais savoir si votre femme et vos enfants se trouvaient à l'époque dans les tours, le World Trade Center, vous en parleriez comme d'un incident. D'abord, si ma femme et mes enfants s'étaient trouvés dans les tours, j'en aurais pas conclu qu'il fallait immédiatement aller bombarder l'Irak. Je me serais d'abord renseigné sur les véritables auteurs du crime. Et après, je me serais intéressé à leur punition. Mais je suis pas forcément d'accord avec le fait que, sous prétexte que M. Bush et sa bande de crétins, parce que c'est vraiment des crétins, des crétins malfaisants et dangereux, décident que c'est les Arabes qui ont fait le coup, pour que je suis pas absolument d'accord pour marcher avec eux d'office. J'attends qu'on me donne des preuves. Et pour l'instant, les seules preuves que j'ai, c'est le preuve du contraire, voilà. Et puis cette dame ajoute, cessez de cracher sur Philippe de Villiers, vous devenez odieux et ignoble. On n'a pas parlé de Villiers.
Si, si, je me suis permis de signaler que Philippe de Villiers, lui, crachait sur la tombe de Papon.
Bah oui, bon, bah alors.
Parce qu'il pense que la gauche et l'extrême gauche n'ont pas assez de salive, ni de glaire dans la bouche.
Mais je parlerai plus de Villiers, parce que de toute façon, bon, c'est plus la peine d'en parler. Même les sondages n'en parlent plus.
Cracher sur les hommes politiques, c'est une bonne glaire.
Son bras droit, son porte-coton, là, comment il s'appelle
Pelletier.
Ouais.
Ex-EFN.
Guillaume Pelletier, qui est passé chez Villiers, parce qu'il pouvait plus, il avait plus de chance d'être directeur du FNJ. L'autre jour, il était reçu sur une radio en disant, mais Le Pen, il fait à peine 17%. Et le type de la radio, qui est pourtant pas un type d'extrême droite, il s'en fout beaucoup, lui dit, en tout cas, s'il fait 17%, ça fait toujours 16% de plus que vous.
Rappelons quand même, Serge.
Un auditeur, l'assassinat de Vercingétorix n'était-il pas lui aussi l'œuvre de la CIA et du Mossad? Mais, cher c'est auditeur, vous avez fait l'école du rire.
Rappelons quand même, Serge, avant d'accepter toutes les accusations, comme vous venez un peu de le faire, que nous n'avons pas proclamé que le 11 septembre était un incident. Nous avons cité un entretien, écoutez bien, chère auditrice, nous avons cité un entretien de Jean-Marie Le Pen avec Lacroix de ce jour, où il dit textuellement, je le cite, l'événement du 11 septembre, pour ne pas dire l'incident. Alors, Le Pen ne l'a pas dit, et nous l'avons encore moins dit. Là-dessus, naturellement, tous les médias, au lieu d'examiner le long discours qu'il fait sur la laïcité, les principes laïques qu'il défend dans notre République, se précipitent sur ce mot d'incident qu'il n'a pas dit.
Ouais,
c'est une prétérition, peut-être. Prétérition,
oui, mais il faut le dire. Il faut dire qu'il
l'a pas dit.
Nous le disons. Savez-vous si Jean-Marie Le Pen a reçu les 500 promesses de parrainage?
Excellente question.
Excellente question. La réponse est dans le Libre Journal.
Dans votre éditorial, Serge, vous revenez surtout sur les conséquences possibles. Vous examinez les conséquences possibles, dramatiques. Sarkozy lui-même a parlé, je crois, de tremblements de terre ou de séismes. Donc ça n'inquiète pas que nous et Jean-Marie Le Pen.
Et Beauvais aussi aujourd'hui.
Il
a fait une grande conférence là-dessus.
Mais Le Pen lui-même a dit qu'il les avait pas. Il l'a dit lundi au cours d'une conférence de presse. Il espère les avoir, mais il ne les a pas.
Et nous avons grillé Fort Carré de Libération pour apprendre avant lui que les spécialistes du Front estimaient à 800 le nombre de signatures, de promesses de signatures nécessaires, dans la mesure où ils redoutent, à juste titre, des signatures piégées, c'est-à-dire qui s'envoleraient en fumée avant d'être réalisées.
Alors vous avez vu que M. Jean Peluchon a été condamné.
Jean Peluchon a été condamné à 6 mois avec sursis, 1 an d'inéligibilité, c'est pas juste.
Oui, oui. Vous savez pourquoi il a été condamné comme ça?
Non, vous allez l'expliquer sur Radio Courtoisie.
Il va tomber sous le coup de la prochaine amnistie, tout simplement.
Ah bon.
Voilà, donc il ne sera pas inéligible du tout.
Dans les punis, une grosse surprise qui est tombée cet après-midi. Monsieur Santini a été exclu de l'EDF. C'était attendu par tout le monde, mais c'est tombé tout à l'heure. Voilà, c'est un scoop qu'on donne à nos auditeurs.
Oui, oui, absolument.
On pouvait s'en douter, hein, cela.
Et le lait.
Ah ben le lait, ça c'était hier.
Le beau le lait.
Il y a un auditeur fou, je le dis parce que quand même, là, il y a un auditeur fou, j'espère qu'il paye très très cher ses fax parce que...
Oui, ils sont bien faits.
Hein, non, c'est écrit dans aucune langue connue.
Ah non, mais je veux dire la texture.
Ah, je sais pas si c'est des fax, alors c'est peut-être des...
Non, un courriel.
Non.
contact@radiocourtoisie.com.
Mais envoyez-en encore plus, monsieur, je vous en prie, faites-moi plaisir parce qu'on rigole bien. Mais on les fera pas partager à nos auditeurs parce qu'ils riraient moins. Alors, bienvenue à Jean-Pierre Petit sur les ondes de Radio Courtoisie. Ça va en décoiffer un certain nombre. Merci Serge. Voilà, enfin un message agréable. Alors Jean-Pierre Petit, je voudrais que vous rappeliez quand même qui vous êtes, parce que...
Vous avez dit tout à l'heure que j'étais directeur de recherche au CNRS. En fait, je suis ex-directeur, parce que maintenant je suis à la retraite.
Ah oui, vous n'avez pas été viré ?
Non, pas du tout. Nous avons essayé, mais ça, il n'y a pas eu moyen. Je me suis accroché comme c'est pas possible. Et je vais vous raconter, j'ai quand même un truc, un scoop à vous dire.
C'est pour ça que j'ai invité.
Ouais, exact. Bon, alors, disons que le CNES a été pendant 30 ans chargé d'étudier le dossier OVNI. Et donc,
Centre national d'études spatiales.
D'études spatiales. Il y a eu quelque chose qui a été créé en 77 qui s'appelait le GEPAN, le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux identifiés. Puis après, ça a connu un certain destin. Et il y a un an ou deux, le CNES a décidé de rendre public toutes les enquêtes qui avaient été faites pendant 30 ans. Alors, on a mis à ce travail-là un type qui s'appelle Patney, qui est un ingénieur du CNES, qui est maintenant à 2 ans de la retraite, que j'ai eu au téléphone il y a quelques semaines, qui est très sympathique. Et il a finalement candidaté pour être dans ce truc-là, parce que ça l'amusait de s'occuper de ce machin-là avant de partir à la retraite. Donc il a récupéré tout ce qui avait été fait, et ce qui a été fait, ça il me l'a dit, c'est 1250 PV de gendarmes avec 6000 témoignages. Et il m'a dit, il faut pas attendre la lune, c'est un peu du genre, l'OVNI venait de la gauche, il est parti sur la droite, et ça a duré 5 secondes. Hein. Et c'est ça, 6000 exemplaires. Alors, c'est quand même quelque chose d'hallucinant, quoi. 30 ans de boulot.
Il y avait combien de personnes au GEPAN?
Peu importe, mais c'est les gendarmes. Alors, il y a par exemple un truc, c'est que quand le CNES, le GEPAN a été créé en 77, Poher, qui avait été le premier chef du GEPAN, avait une idée, c'était pas bête du tout. Il avait chargé une société qui s'appelait la société Jebeux à Yvon d'étudier ce qu'on appelle des bonnettes à réseau. Et quand on met ça devant un appareil photo, ça fait un spectre, ça le transforme en spectroscope. Et à ce moment-là, l'idée, c'était si on peut mettre des choses comme ça dans les appareils photo, si un jour il y a une observation nocturne, on prend un cliché de ce truc-là, on va avoir des renseignements sur la composition chimique, la température, des trucs comme ça. Mais on a décidé de donner ça aux gendarmes. Et en 30 ans, il n'y a pas eu une photo exploitable. Ils ont eu deux films complètement foirés.
Pourquoi il faut mettre les trucs sur l'objectif? Ça ne marchera pas.
Oui.
Pourquoi ça ne marchera pas? Il faut le retirer.
Mais je veux dire, vous imaginez les dialogues du genre, oh, dis donc, où il est le chose là,
oui.
Oh, il est resté là-bas.
Je l'ai pris pour la communion du petit.
Oui, c'est ça.
Oublié de le rapporter.
Voilà. Puis en plus, ils ont changé d'appareil. Mais les bonnettes, je vous dirais une chose, ils ne savent même plus où elles sont passées. Vous vous rendez compte? Il n'y a pas trop. Alors, ce qu'on va faire,
il y a quand même un truc qui est incroyable, c'est que vous nous dites, pendant 30 ans, le GEPAN, qui est un organisme officiel, n'a rien fait d'autre que de collationner des rapports de gendarmerie qui étaient faits par des gendarmes. Quoi.
Bon,
c'est quand même pas les spécialistes de la question. Et pendant ce temps-là, il y a un type pratiquement tout seul qui s'appelle Ménard, qui a fait Lumière dans la nuit, qui est une revue trimestrielle.
Ah, je suppose,
ouais, ouais, maintenant ouais. C'est trimestriel, qui est magnifique, vraiment, qui est un truc passionnant. Et lui, il a mené une enquête, ça fait plus de 30 ans, ça fait 40 ans qu'il enquête là-dessus, et il est arrivé à des conclusions, il est arrivé à des hypothèses qui sont quand même assez intéressantes, et il publie notamment dans le dernier numéro de Lumière dans la nuit un texte extraordinaire sur quelque chose qui se passe aux États-Unis, qui a dû donner lieu, lui, alors, un phénomène qui se passe aux États-Unis qui a donné lieu à une très très longue enquête par un groupe spécialisé et puis sérieux où on voit une espèce de concaténation d'événements tous plus inexplicables les uns que les autres, c'est-à-dire des apparitions d'animaux bizarres, d'objets volants non identifiés, des manifestations anormales, surnaturelles, préternaturelles, tout ça dans une ferme. Bon, et la conclusion de, je suppose, hein, parce qu'il le dit pas d'une façon claire, conclusion de Ménard, c'est que on est dans un dans l'ordre du surnaturel, pas du tout dans l'ordre d'un phénomène naturel. Alors, je sais bien que vous partagez pas cette analyse.
C'est pas la question. C'est que, disons que cette nouvelle, quand Patney m'a dit, vous savez, faut pas rêver, ça ressemble au PV d'accident de voiture. Alors, 30 ans passés à faire ça, c'est pas possible. Donc, j'ai décidé de remonter les manches et de créer un labo dans Paris. Hein, parce que maintenant, je suis pas loin, donc je suis à 1h30 de Paris, donc ça colle. Là, vous avez mes collaborateurs, et j'ai aussi des amis chercheurs, ingénieurs. On s'est dit, soyons réalistes, envisageons l'impossible. C'est-à-dire que puisque personne n'a rien fait, si on fait quelque chose, ce sera toujours ça.
Mieux, forcément mieux.
C'est forcément mieux. Donc là, par exemple, on cherche un local. Hein, on a déposé des statuts d'une association qu'on a appelée UFO Science. Hein, et là-dedans, on a des ambitions tous azimuts. On va relancer les études de MHD qui ont été complètement foirées au CNES il y a 30 ans. C'est quand même pas... Moi, tout d'un coup, j'ai réalisé, je me suis assis sur mon cul, j'ai dit, punaise, 3 décennies ont passé. Hein, on a l'impression qu'on se réveille comme la Belle au bois dormant, quoi. Et là, moi, j'ai 70 balais dans un mois, j'ai pas envie d'attendre 30 ans de plus. Hein, donc, c'est pas la peine d'attendre...
Ça concerne le CNRS, quand même. Ouais, c'est pas
d'accord,
mal, hein.
D'accord. Mais je veux dire que on n'attend plus rien des institutionnels, plus rien du CNRS, plus rien du CNES, plus rien de tous ces gens-là, plus rien de l'armée. Hein. Donc on va faire un labo, on va construire des souffleries supersoniques, on va faire des trucs avec 50 000 ampères. Je vous assure, on va cartonner, quoi, c'est tout. Et bon, bah, on va. Moi, j'ai déjà un site internet que les gens connaissent, www.jp-petit.com. Donc déjà, on a.
Il y a un message d'ailleurs d'une auditrice qui dit: je regarde régulièrement votre site, je suis votre fan et je trouve que vous êtes un peu absent en ce moment. Quand revenez-vous nous donner des nouvelles? Ben voilà, vous venez de le faire. Ben,
exactement, j'étais en Chine. Alors, je ne pouvais pas être partout. Hein, mais là, on crée l'association. Les gens vont nous envoyer des sous. Alors, d'abord, il y a une chose, c'est que l'année dernière, vous savez que j'ai fait des bandes dessinées, des aventures.
Ouais, l'enturlue.
Etc., etc. Et puis, j'ai pu récupérer tous les droits sur mes bandes dessinées. Et il y a un an, j'ai mis tout dans le domaine public. Donc, vous allez sur www.savoir-centre-frontières.com et vous téléchargez toutes les BD. Et ensuite, il y avait des versions dans différentes langues. Bon, on a aussi mis ça sous forme de PDF. Puis à un moment, j'ai dit, ce serait quand même sympa si on pouvait traduire ça dans d'autres langues. Alors, j'ai demandé des sous à mes lecteurs. Et quand on a fait une association, on fera la même chose pour l'association UFO Science. Quand les gens fileront des ronds, il y aura leur nom, combien ils ont donné, et ce fric ira entièrement au but qu'on s'est fixé. Hein, on a une comptabilité complètement transparente.
Une question stupide, mais on a une tirelire là pour les gens qui font des anglicismes inutiles. Pourquoi UFO et pas OVNI? UFO, je le dis aux auditeurs qui ne le sauraient pas, c'est Unidentified Flying Objects, c'est l'anglo-américain pour OVNI.
Je comprends très bien, on a pensé à OVNI, mais on espère pouvoir donner à ça une envergure internationale. Et OVNI, c'est pas compris, alors que UFO, c'est compris par un maximum de pays. Et quand je vous parle, par exemple, de Savoir sans frontières, j'ai demandé des ronds aux gens il y a un an, ils m'ont envoyé 30 000 euros. Et on a fait 85 traductions. Et là, je suis parti en Chine une semaine. Bon, bah, je reviens. Il y a 2 traductions en hébreu. Il y en a 2 en vietnamien. Ça cartonne. Alors que je me suis adressé à l'UNESCO, j'ai perdu mon temps, quoi. C'est tout. C'est un moyen de rire, quoi. Et là, c'est le même phénomène. C'est-à-dire qu'on s'adresse à l'UNESCO pour faire un truc. Rien. Bon.
Mais attendez, ils ont besoin de l'UNESCO. Il faut du fric pour autre chose. Il faut du fric pour voyager en première classe.
Voilà.
À bord de Concorde ou dans les avions.
C'est ce qu'on a compris. C'est ce qu'on a
voilà, c'est tout.
C'est ce qu'on a
c'est pas fait pour financer des trucs comme
voilà.
Vous.
Alors nous, on finance. On a des traductions. On paye 150 euros la traduction. Et en plus, on s'est aperçu d'un truc. C'est que 150 euros pour un Français, pour un Anglais, pour un Allemand, c'est pas extraordinaire. Mais pour un Polonais, c'est 1 mois de salaire. Pour un Indien, c'est 2 mois de salaire. Donc il y a des gens qui nous traduisent comme ça.
Alors, j'ai continué. Mais ce que vous nous dites là, ça implique que vous escomptez bel et bien identifier ces objets volants.
Bien sûr
qu'il y a quelque chose à découvrir.
Mais bien sûr que oui.
Alors, justement. La question que pose Patrick me paraît effectivement fondamentale. Parce que il y a 50 ans, disons pour faire simple, il y a 60 ans qu'on parle des ovnis.
Absolument.
Hein, 47.
Absolument.
C'est le 60e anniversaire pratiquement. Qu'on en parle de la façon dont on en parle aujourd'hui, parce qu'on en parlait bien avant, et mais d'une façon différente. Depuis 60 ans... Le phénomène OVNI lui-même, c'est-à-dire la soucoupe volante, pour parler simplement, a été marginalisé, ou en tout cas est devenu un des éléments d'une fantastique interrogation qui comprend maintenant ce qu'on appelle les crop circles, hein, c'est-à-dire ces dessins qui apparaissent dans les champs, où on nous a donné des explications qui sont à peine dignes d'un conte pour enfants, en disant que c'est des vieux messieurs qui, pour occuper leur retraite, font ça avec des bouts de ficelle et des morceaux de bambou. Il y a l'histoire des mutilations animales, il y a l'histoire des abductions ou des enlèvements, plus exactement. Donc il y a plein d'éléments qui sont ajoutés à ça, plein de questions qui se sont posées. Est-ce que vous allez traiter tout globalement ou est-ce que vous allez vous orienter vers plein de choses?
On va traiter plein de choses. Il y a des trucs, par exemple. Il y a une chose, c'est que moi je voudrais rendre hommage ici à mon ami Michel Bougnas qui est mort il y a quelques années. Et c'est une histoire qui date de 81. Peut-être que vous avez entendu parler de l'affaire de Trans-en-Provence.
Oui,
c'est
bien sûr.
C'est vraiment le truc énorme. C'est-à-dire que en 81, je crois que c'est cette date-là, il y a un ovni qui se pose dans le champ d'un type qui s'appelle Renato Nicolai. Et puis, de fil en aiguille, un commandant de gendarmerie un peu intelligent arrive et fait des prélèvements. Et en plus, il a plu et il ramasse la terre, il met ça dans des boîtes à chaussures. Et avec modulo la lenteur chamelière de toutes ces analyses, ça finit par arriver sur la table d'un type de l'Institut National de la Recherche en Agronomie qui est spécialisé dans l'examen des traumatismes végétaux. Et il trouve qu'il y a une différence énorme entre les équipements pigmentaires dans la trace et en dehors de la trace. Il demande à ce moment-là à ce qu'on fasse des mesures tous les mètres, et à ce moment-là, on a des courbes absolument fabuleuses où on voit qu'il y a un phénomène complètement... il y a des paramètres qui sont altérés à 80%, quoi. C'est pas un phénomène où on se dit, oh, on a l'impression que non. C'est vraiment un truc très net. Et à ce moment-là, Bougnas et moi, on s'est adressé au CNES, tous les deux. On a dit, il faut essayer de simuler ça, hein, parce que il y avait aucun effecteur connu. C'est pas en mettant du ciment sur des herbes qu'on arrive à faire un truc comme ça.
Et
à
ce moment-là, ni de la chaleur, ni de l'irradiation, rien du tout.
Bah, l'irradiation, il fallait 100 mégarades, hein. Il fallait vraiment des puissances considérables. Donc, on avait pensé qu'on pourrait tenter de reconstituer le phénomène en prenant des luzernes témoins et en les bombardant avec des micro-ondes pulsées. Les micro-ondes pulsées, ça a l'air, vous en avez dans vos tours en micro-ondes. Mmh. Je peux vous dire la chose suivante, c'est que dès qu'on aura un local, dès qu'on aura 4 sous, etc., on désossera un four à micro-ondes qui sort du 3 giga, on va le pulser en basse fréquence avec une boîte de mécano et on va faire agir ça sur des luzernes.
Et vous voulez des fleurs sur votre tombe ou non? Quand vous aurez fait ça.
De Beckett, je vous dis la chose suivante. Je crois que plus on vieillit, plus on doit prendre de risques. Et moi, je crois que je suis un aventurier, quoi, c'est tout, hein. Ouais. Et pour m'arrêter dans un truc comme ça, je crois qu'il faudrait me buter, c'est tout. Et on fera pas marche arrière.
Parce qu'une fois encore, je répète ma question fondamentale à laquelle il a été répondu qu'indirectement. Vous croyez qu'il y a quelque chose à découvrir?
Ben, des recherches à faire, c'est évident. Vous avez un phénomène qui se produit. Hein. Vous bombardez des luzernes avec des micro-ondes pulsées. Puis vous faites les mêmes analyses que Bougnas. Si vous trouvez les mêmes résultats, les micro-ondes pulsées, ça n'existe pas dans la nature. Hein. C'est tout. Donc ça voudrait dire que le type a vraiment vu quelque chose et que c'est vraiment une machine qui s'est posée en 1981.
Alors un phénomène surnaturel ou au moins extraterrestre.
Mais extraterrestre, pas surnaturel. Mais des choses comme ça, par exemple. Alors quand on a proposé ça au CNES tous les deux, ils n'ont pas voulu nous entendre.
C'est intéressant parce que quelle est la réaction en général? C'est une réaction de haussement d'épaule, genre vous vous emmerdez avec vos salades, ou il y a un refus qui est inspiré par la crainte de découvrir quelque chose ou
mais
pas?
Mais non, c'est pas de réaction du tout. C'est extraordinaire. C'est
aux États-Unis, il y a des recherches officielles, non? Qu'est-ce qu'elles ont donné?
Mais j'ai réécrit un bouquin là-dessus que j'ai appelé OVNI, arme secrète américaine. Il faut lire ça. Vraiment, c'est décoiffant. Mais si on parle de ça, on va y passer la soirée, donc on n'a pas le temps. Ce que je veux dire, c'est que là maintenant, on se crée une association, les gens vont nous envoyer des sous. Si Savoir Sans Frontières a ramassé 30 000 euros, on va bien en ramasser quelques milliers avec ce que nous donnons les gens. Avec cela, on se louera local. Si on n'a pas beaucoup de sous, on se louera un truc de la taille d'un garage et on commencera des recherches là-dedans. Ça ressemblera un peu à Emmaüs Science. Mais moi, j'ai déjà fait des trucs comme ça il y a 20 ans et j'ai obtenu des résultats scientifiques de première bourre que j'ai publiés dans des colloques internationaux où je suis allé à mes frais, c'est tout. Hein, je veux dire que moi, j'ai dit à Sillard qui est à la retraite maintenant, et qui avait créé le GEPAN il y a 30 ans, vous savez, si ça prend une tournure de scandale, je ne ferai rien pour arrêter. Parce que ce qui est scandaleux, c'est de se retrouver 30 ans sans un radis pour faire des recherches. Hein. Alors,
quand vous entamez ce genre de projet, enfin, quand vous entrez dans ce genre de projet, est-ce que vous entrez avec un esprit, je dirais, totalement affranchi de tout a priori, ou est-ce que vous dites je suis sûr qu'il y a quelque chose et je voulais démontrer quelque chose en quoi vous croyez ou vraiment
Je viens avec un esprit de scientifique. Alors je précisais qu'on cherche un local dans Paris intramuros. Ça c'est une chose. Bon, mais les études, vous êtes scientifique, on vous pose une question. Un scientifique c'est quoi? Ça ressemble à un juge d'instruction. Le juge d'instruction, il se dit est-ce que Attel a pu commettre le crime? Bon, bah s'il a pu commettre le crime, s'il fallait qu'il aille en moto à 500 km/h, c'est pas possible. Hein, on cherche à faire des reconstitutions. Et par exemple, le phénomène de Trans-en-Provence, il y a deux choses l'une, ou c'est le type qui a raconté des blagues, ou les analyses sont pas bonnes, etc. Mais il faut faire des choses, il faut instruire un dossier. Or, depuis 30 ans, le dossier n'a pas été instruit, c'est tout.
Est-ce que, oui, moi la question que je me pose tout le temps, je sais que j'ai lu des centaines de bouquins, d'articles sur ces questions, c'est... Pourquoi n'y a-t-il, aux États-Unis, il y a le projet Blue Book, dont on sait ce qu'il faut penser. Mais bon, en France, il y a eu le GEPAN, dont vous venez de nous dire, c'est encore pire que ce que je craignais. Moi, j'avais entendu parler du GEPAN comme une espèce de truc de poudre aux yeux, mais alors à ce point-là, c'est invraisemblable.
C'est l'incompétence. C'est de l'incompétence.
Est-ce que c'est de l'incompétence? Voilà la question.
On a cru que c'était du machiavélisme, on a cru qu'il y avait des informations, mais il n'y a même pas eu des informations. Simplement, on a mis en place des gens qui n'étaient pas à la hauteur de la situation, c'est tout. On a donné par exemple ces bonnettes à réseau à des gendarmes. Les gendarmes, c'est pas des scientifiques, c'est pas de leur faute. On peut pas leur demander de manipuler des choses de genre. Alors par exemple, quand vous vous demandez un peu qu'est-ce qu'on peut faire, eh bien ce qu'on fera très rapidement, c'est qu'on cherchera des gens qui fabriquent des téléphones portables qui sont munis d'un petit truc photo. Et vous savez que les téléphones portables, maintenant on sait plus quoi faire pour les vendre. On l'a mis à gadget, vous pouvez faire des photos avec, puis un jour il y aura une tirette avec un sandwich, n'importe quoi.
C'est ça, j'attends ça pour en acheter un.
Voilà, exactement. On dira à un type, c'est pas cher, vous mettez un petit clapet comme ça, qu'on pousse avec le pouce, et à ce moment-là, crac, ça fait un spectre. Et si on a 1 million de téléphones portables en circulation, la nuit, un jour, il y a un gars qui dira, tiens, passe-moi le truc, clac, il prendra une photo, on aura un spectre. Alors on aura peut-être des faux spectres, mais on aura peut-être des vrais spectres. Tous les gens ne sont pas des farceurs.
On en a eu beaucoup de faux jusqu'à maintenant.
Pas du tout, on n'en a eu aucun. Les gendarmes n'en ont pas été capables de prendre une seule photo. C'est pas mal, hein. Et moi, je croyais que ça avait été caché. Non,
c'est-à-dire, ça bouge plus qu'un accident de la route, quand même, parce qu'un accident de la route, une fois que les deux bagnoles sont encastrées l'une dans l'autre, un gendarme arrive à faire une photo.
Voilà. Hein. Non, mais je vais pas leur taper dessus. Je pense
Les gendarmes sont plus forts que nous.
Ils ont eu ces bonnettes pendant 28 ans, mais ça fait 20 ans qu'elles sont paumées. Vous voyez? Et si vous allez dans une brigade de gendarmerie, si vous dites, est-ce que vous avez les bonnettes à réseau pour photographier les ovnis, il dira, je ne sais pas de quoi vous voulez parler.
Soufflez dans le ballon, je vais faire l'essai.
Soufflez dans le ballon.
Dites-moi, est-ce que vous avez une idée, ou d'abord, je suppose que vous êtes au courant de cette histoire qui traîne un peu sur Internet depuis un an ou deux, ces espèces de verres qu'on voit apparaître sur certaines images vidéo. Vous n'avez pas vu ça? Alors ça, c'est un truc, j'ai découvert ça il y a quelques mois. Donc c'est les premières photos, les premières images ont été prises dans un gouffre de 400 mètres de profondeur où les gars font du base jumping, du saut à un parachute. Et donc ils se filment. Et en se filmant, ils ont vu apparaître sur l'écran une espèce de truc bizarre, un peu comme des filaments ou des poissons ou des anguilles qui étaient en l'air et qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Et à partir de là, ils ont commencé à chercher ce que ça pouvait être. Et puis, ils ont découvert qu'il y avait des tas de gens qui avaient fait des images comme ça. Alors, des vidéos de communion, de mariage, de vacances, de tourisme et tout, où on voit apparaître, alors on a pensé que c'était des défauts de l'objectif, c'est pas ça, on a pensé que ça pouvait être des phénomènes lumineux anormaux, c'est pas ça, on a pensé que ça pouvait être des insectes, hein. Alors des insectes qui font 2 mètres de long, c'est quand même, je n'étais pas au courant de l'existence, certains ont dit que c'était des oiseaux, vous n'êtes pas au courant de ça?
Non,
je
n'étais pas au courant.
C'est tout frais cette histoire.
Bon, le truc c'est qu'on ne peut pas être partout, hein. Tout à l'heure vous avez parlé des crop circles, par exemple, les crop circles, il y a un truc, c'est que...
Dans les crop circles, rappelons que c'est, comme c'est en anglais, il faut le traduire, c'est les, ronds dans les dessins qui apparaissent dans les... Dans
voilà. Et ces dessins, les tiges de blé, elles sont non pas cassées, mais pliées. Ouais. Il y a des nœuds dans les tiges de blé, et dans ces nœuds, la plante stocke de l'eau. Bon, moi, j'ai lu des trucs comme quoi on arrivait à reconstituer cette flexion en mettant des micro-ondes. Eh bien, on va faire pareil. Ah. On va bombarder des blés avec des micro-ondes pour voir si ça se plie.
Il y a d'autres moyens quand même. La fille à Mathurin, quand tu lui plais bien. Le veilleur de la Saint-Jean, tu le danseras dans les champs.
Oui, mais pour faire des trucs d'un hectare, il faut vraiment avoir
la... Il faut avoir autre chose que la fille à Mathurin voilà, c'est ça. À rencontrer. Hein? Donc, quand vous allez monter l'association est montée, vous cherchez un local dans Paris intramuros.
Ah, et puis un local pour faire des conférences aussi. Et les conférences, on fera des confs. Et dans ces confs, elles ne seront pas payantes. Mais bon, les gens, ils pourront faire un chèque pour l'association et nous financer. Mais on fera des recherches, il nous faudra de l'argent. Il y a des gens qui disent, mais d'où viendra l'argent? Mais c'est vous qui donnerez l'argent. C'est comme pour Savoir Sans Frontières, 30 000 euros, c'est quand même quelque chose. Et bien, c'est fait par des braves gens. Des gens qui envoient 10 euros, 15 euros, maximum 100. C'est tout.
Voilà. Vous allez publier, vous allez faire une publication régulière ou vous allez communiquer sur le site internet,
Bien sûr, il y aura tout le temps.
Bon, alors.
Le marquis se gondole sur les messages. Pas, on pourrait peut-être en profiter.
Oui, moi, qu'est-ce que vous racontez de marrant sur ces messages?
C'est toujours le même.
Alors, il ne montre rien.
Pour le local dans Paris, il y a la tour Montparnasse en haut, c'est plat. Pour la tour Eiffel, il faut que les ONI aient un stabilisateur. Non, mais moi, ce que j'aime bien, c'est que, effectivement, en France, on a une arme, l'arme absolue contre. Dès que quelque chose gêne, il y a plusieurs armes absolues. Il y a l'injure pure, ça c'est un peu à la portée de n'importe qui. Il y a vous êtes un secteur où vous êtes gnostique, où vous êtes pédophile, où vous êtes. Je sais pas quoi. Et puis alors, il y a le ricanement.
Oh, mais ça, je reconnais ça. C'est marrant ce message.
Non, c'est pas marrant du tout.
Vous l'avez lu.
C'est pas marrant du tout parce que. Pour se poser au sommet de la tour Eiffel, il fallait un stabilisateur.
Il vous suggère de prendre un local en haut de la tour Montparnasse parce que c'est plat. Il dit que par contre, là, sur la tour Eiffel, il faut que les ovnis aient un stabilisateur. Et ça, je dis que c'est pas drôle.
Non, je vous ai toujours connu plein d'humour.
C'est autre chose.
C'est le même genre de type qui vous dit qu'on va parler des choses sérieuses. Hein. Parlez-nous de l'élection présidentielle.
Voilà, je vous dis tout de suite, il nous faut un local au rez-de-chaussée parce qu'on peut avoir des trucs un peu lourds. Il nous faut de l'eau, de l'électricité, de la ventilation. C'est tout. Et le reste, on se démerde. Ouais. Et en plus, les gens... Vous savez, moi, j'ai annoncé ça sur mon site. Tout de suite, il y a des gars qui m'ont dit, on est une école d'ingénieurs, les étudiants, les profs, on marche avec vous. Des types qui m'ont dit, je suis électronicien, je vous fais des montages.
Voilà. Il y a deux sortes de réactions. Il y a la réaction pratique, positive, utile.
Un type qui dit, moi, j'ai un atelier, j'ai un tour, une fraiseuse, si vous avez des trucs à faire, vous faites les plans, vous construisez les trucs. Mais on va faire de la recherche et on va se démerder, on va construire des trucs formidables.
Alors, où est-ce qu'on peut vous contacter? Pas seulement par courrier, vous avez une adresse où on peut vous écrire?
Adresse email, jpetit1937, c'est ma date de naissance, @yahoo.fr. Mettez en contact avec moi comme ça. Voilà.
Bon, et autrement, une adresse postale simplement, vous en avez une pour l'instant?
Vous voulez qu'on la.
Oui, il faut la donner parce que tous les auditeurs ne sont pas équipés encore.
Ok, 141 Val des Seigneurs, 141 Val des Seigneurs, 1150 Bruxelles, Belgique. Je suis en Belgique.
Okay. Là, pour l'instant, vous êtes en Belgique, mais vous ne revenez pas.
Je vais peut-être revenir à Paris. Si ça marche très bien, on reviendra à Paris. Mais on va faire ce truc.
Ok, écoutez, moi je suivrai ça avec beaucoup d'intérêt parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Alors voilà une question. Ça vous concerne pas, ça concerne le sujet. Mais considérez-vous que la foi catholique est compatible avec la croyance aux ovnis? Mais c'est pas un problème de croyance. D'abord, il faut savoir, la foi catholique, elle est fondée, pour ma foi catholique, elle est fondée sur la lecture de la Bible et du, y compris le Nouveau Testament, ou à commencer par le Nouveau Testament. Les ovnis, il s'agit pas de croire ou de pas de croire, il s'agit de savoir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont vu des choses, qui les ont photographiées, filmées, qui en ont parlé, qui ont témoigné et tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors, si on me dit, maintenant je vais plus loin, si on me dit les ovnis sont des engins spatiaux qui viennent d'autres planètes pour amener des visiteurs sur la Terre, là je dis, moi personnellement, je n'y crois pas parce que c'est pas compatible avec ma foi catholique. Pour une raison extrêmement simple. La foi catholique, elle est fondée sur la rédemption, c'est-à-dire sur la certitude que l'homme est porteur du péché originel et que le Christ est venu sur terre donner sa vie pour nous laver du péché originel. S'il y a d'autres civilisations, d'autres intelligences, alors il faut que je revienne un tout petit peu en arrière, l'homme, par le péché originel, a perdu la possibilité de vivre dans la vision béatifique, c'est-à-dire dans la compagnie du Créateur. Bon. Ayant perdu cette possibilité, il a été chassé, ça s'exprime dans la Bible par le fait qu'il a été chassé du paradis, et à ce moment-là, il est porteur du péché originel que le Christ est venu réparer, ou dont le Christ est venu corriger les effets. Si on imagine qu'il y a des hommes ou des êtres, des intelligences dans l'espace, dans d'autres planètes, comme elles sont, les intelligences, elles ont été fabriquées par le même Créateur, il y a deux possibilités. Ou elles sont affranchies du péché originel, puisqu'elles ne viennent pas de l'homme, elles ne sont pas héritières d'Adam. Ça supposerait qu'Adam ait construit une fusée pour aller essaimer, ce qui me paraît quand même un peu compliqué. Ou elles ne viennent pas d'Adam, et à ce moment-là, elles sont affranchies du péché originel. Ou ça supposerait que le péché originel a été renouvelé dans chaque planète où il y a une intelligence.
Mais Gaëch, on peut en parler. Vous savez, la métaphysique, ça m'intéresse énormément. Et si vous en parlez, ça va être très déstabilisant. Je pourrais par exemple vous poser une question. Pensez-vous que le Christ était génétiquement compatible avec l'espèce humaine?
C'était un homme.
Génétiquement compatible.
Oui, certainement.
C'était un homme.
Oui.
Moi, j'en suis pas sûr. Je veux dire que.
Si, moi, j'en suis sûr parce que ça fait partie de ma foi. Oui. L'homme, Christ est homme et Dieu.
Il est né
d'une femme.
Oui.
Et il est homme et Dieu. Voilà. Il est génétiquement compatible.
Mais est-ce que notre vision que nous avons de la métaphysique, parce que quand on parle de Dieu, c'est. Moi, il y a une vision que je n'ai pas, c'est la vision matérialiste. C'est-à-dire le scientifique qui dira, vous savez, la conscience, c'est quelque chose qui apparaît spontanément, c'est inscrit dans la table de Mendeleïev, je ne suis pas d'accord.
Il
y a un univers matériel et puis il y a un univers psychique. Qui est en interaction avec celui-là. Parce qu'il y a une chose, par exemple, quand vous prenez un scientifique, vous dites qu'est-ce que c'est que la conscience, il ne sait pas répondre. Vous vous rappelez qu'il y avait un prix Nobel de neurosciences, s'appelait Edelman, qui avait déclaré un jour, je suis convaincu qu'on saura un jour fabriquer des robots pensants et conscients. Alors, on aurait pu lui dire, mais c'est quoi la pensée et c'est quoi la conscience, hein? On a envie de dire, y a-t-il un philosophe dans la salle, quoi, hein?
Je pense que si on fabriquait un robot comme ça, la première chose qu'il ferait, c'est de se suicider.
Oui. Bon, enfin bon, disons que ma position de scientifique, c'est que je n'ai pas une position de matérialiste, je ne détiens pas la vérité, je pense que ces choses doivent être réfléchies, mais vous posez la question par rapport à des ethnies extraterrestres, vous avez une vision chrétienne.
Oui, hein, c'est tout, je prétends pas le contraire.
Voilà, avec une croyance, mais il est possible, je dirais, que vous ayez à la fois raison et tort, c'est-à-dire que...
Je ne l'exclus pas.
C'est-à-dire que...
Sinon, je crois que vous avez forcément raison.
Elle se réfère à des faits qui ont réellement existé, à un phénomène qui est réellement transcendant, mais à ce moment-là, vous le voyez un peu par le petit bout de la lorgnette, ou comme, disons, une image kaléidoscopique par rapport à une réalité beaucoup plus vaste. Vous savez, il y a quand même une chose, c'est que sur Terre, il y a des bouddhistes, ils ne disent pas forcément des conneries, il y a des chrétiens, ils ne disent pas forcément des conneries, il y a tout ça, ça compte toute une palette, et peut-être que la réalité, enfin la vision métaphysique performante, elle fait que ces différentes croyances sont des aspects kaléidoscopiques d'une réalité plus vaste. Et dans cette réalité plus vaste, il y a la place pour mettre une vie extraterrestre. Et parce que sans ça, les Juifs sont le peuple élu. C'est-à-dire que dans tout l'univers, il y a Israël,
en tout cas, c'est ce que nous dit l'Écriture.
Oui, enfin,
on n'est pas forcé de l'admettre, mais si on accepte l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme la parole divine, eh ben, c'est comme ça. Voilà. Et en tout cas, pour répondre à je répondais à la question d'un auditeur ou d'une auditrice, d'un auditeur, considérez-vous que la foi catholique est compatible avec la croyance aux ovnis? Premièrement, les ovnis, c'est pas une question de croyance. Deuxièmement, si vous parlez de la croyance dans l'existence de vie, d'intelligence extraterrestre, effectivement, c'est incompatible. Pour moi, voilà, c'est tout.
Mais je vais vous dire un truc. Prenez simplement le problème de l'émergence de la vie sur Terre. Hein. On a des structures matérielles. Et puis après, on a une vie très primitive, on a des bactéries, etc. Premier niveau de vie, le plancton. Le plancton, il n'a pas de mémoire. Hein. C'est un truc qui a juste une rome. On ne peut pas
Comme ça, ça évite qu'il nous emmerde toute la journée.
D'accord, mais on ne peut pas le conditionner de manière pavlovienne. Après, vous passez à un deuxième niveau, qui est l'oursin, qui lui est capable de mémoriser. Après, on passe à un niveau intelligent. La question que je pose, est-ce que l'homme, c'est le dernier stade? Est-ce qu'il n'y a pas un homme plus un, et qu'il n'y a pas les êtres à venir dont, vis-à-vis desquels nous serons comme des singes? Et ça, c'est vraiment le truc intéressant.
Il y a beaucoup, beaucoup de messages.
Ce que je crois, c'est qu'il y a des hommes, il y a des êtres à venir qui seront comme des singes, parce que contrairement à Darwin, moi, je ne crois pas du tout que l'homme descend du singe. Je sais de façon certaine que le singe descend de l'homme, parce que je regarde beaucoup la télévision.
Il y a beaucoup, beaucoup de messages. Il faut s'excuser auprès des auditeurs et des auditrices dont on ne peut pas matériellement lire les messages, parce qu'il y en a des dizaines qui font des centaines maintenant.
Il y en a beaucoup qui se doublent, hein, aussi, il faut quand même le dire.
À propos de la question qu'on vient d'évoquer à l'instant, que pensez-vous de Bérou? Alors, je vais vous répondre.
Il n'en pense rien à part.
Voilà, est-ce que ça c'est clair. Voilà, bon. Donc, je rappelle, vous avez noté les adresses, ma chère Victoria?
Non, moi j'ai rien noté du tout. Mais justement, je vais en profiter pour vous lire un message. Ça va m'aider. Arrêtez de parler tous ensemble. Quand vous donnez une adresse ou un mail, on n'a rien compris.
Donc, voilà. Bon, alors voilà. Donc, redonnez, s'il vous plaît, les adresses.
Alors, mon site internet.
Bah, allez-y, tiens.
Allez, www.jp-petit.com.org.
Voilà. Non, mais c'est vite fait, ça. Voilà. Bon. Et l'adresse email.
L'adresse email, jppetit1937, tous alliés, hein, jppetit1937@yahoo.fr.
Yahoo.fr,
ok, bon. Hein? Ensuite, et pour les bandes dessinées, www.savoir-100-frontières.com. Et là, vous avez 150 bouquins à lire.
Eh ben, rendez-moi mon stylo devenu inutile. Merci.
Et puis l'adresse postale, alors
141
Val des Seigneurs.
Oui, Val des Seigneurs. J'espère que je suis pas sûr. 1150 Bruxelles, Belgique.
1150 Bruxelles.
Alors, j'aimerais bien, pendant que Monsieur Petit parle à son cartable, donner l'adresse du Libre Journal. Vous me le permettez, Serge, il nous reste 5 minutes, là, avant la coupure technique. Donc, on y a fait quelques allusions tout à l'heure. Nous venons aujourd'hui de faire sortir des presses le numéro 400. Champagne, c'est pas mal, hein, 400 pour un journal dont on vous disait, je crois, pendant les 10 premiers numéros,
on dit ça toujours,
qu'il ne passerait pas l'hiver, d'autant que c'est un décadaire, hein, ça fait 4000 jours, il me semble, ou à peu près. Dans ce numéro 400, vous revenez, Serge de Vecchetch, je crois que c'est très important, mais non seulement pour nos éditeurs, ni pour et pour notre courant de pensée. Excusez-moi, messieurs, mais on va pas y arriver, hein. Si vous parlez même à un mètre des micros, on vous entend. Vous pouvez correspondre par écrit. Dans ce numéro, je disais, vous revenez sur une question qui est vraiment de la plus haute importance, non seulement pour nos éditeurs, non seulement pour notre courant de pensée, mais pour nos institutions, notre pays tout entier, à savoir, que se passera-t-il, quelles seront les conséquences si Jean-Marie Le Pen n'obtient pas ses 500 signatures. Je ne vais pas résumer l'article, vous pensez bien, mais vous examinez longuement, sérieusement et calmement la question, dont M. Sarkozy lui-même a dit, si je ne m'abuse, que ce serait un séisme. Hein. Il est bien évident que 5,5 millions d'électeurs, les électeurs d'un monsieur qui est quand même arrivé en deuxième position à l'élection présidentielle de 2002, s'ils étaient privés même du droit de s'exprimer sans même obtenir un député à 5,5 millions, ça aurait sans doute des conséquences cataclysmiques. Excusez-moi, je suis sincèrement ému par cette perspective. Okay. Nous revenons aussi sur une double page sur la campagne de M. Sarkozy. Notre ami historique François Brignaud, monument historique de la presse patriotique, compare les performances respectives de Ségolène et de Louise Michel. Il compare également, puisqu'il est d'humeur comparative, Philémon et Baucis avec le couple
Hollande et Royal.
Chirac. Ah bon, Hollande et Royal, il y a une...
Non, je me suis trompé, je mélange avec les deux.
Vous m'avez fait peur. Notre ami Blanza, kidnappé chez Balcon Info, continue son feuilleton sur une double page sur les infrastructures en général, et il montre que ce sont les chaînes du mondialisme, avec pas mal d'astuces. Nous avons un reportage à Goa, et nous avons un reportage, le début d'un feuilleton, le marquis, notre divin marquis ici présent, Jean-Paul Chérigas de Olmeta, revient de 3 semaines, je crois. Trois semaines en mer de Chine méridionale, premier épisode dans le Libre Journal numéro 400, Paris, Singapour, Saïgon. Ce qui est intéressant, c'est que naturellement les aperçus ne manquent pas sur le choc des civilisations, le développement impétueux de l'économie, de la finance chez tous ces dragons asiatiques, mais c'est combiné avec des observations humaines extrêmement intéressantes sur la faune des croisières. Le marquis n'est pas toujours de bonne humeur, mais ça lui donne un œil extrêmement aigu, et c'est donc très amusant et très instructif que ce reportage.
Il faut déplacer la négation. Il faut pas dire le marquis n'est pas toujours de bonne humeur. Le marquis est toujours de pas bonne humeur.
Voilà. Un dernier détail dans ce numéro, nous n'avons pas peur de revenir sur la créature de la presse People, Anna Nicole Smith, parce que nous considérons, et nous ne sommes pas les seuls, que son décès à moins de 40 ans est quand même un petit peu suspect, d'autant plus suspect que son fils de 20 ans lui aussi est mort dans des conditions qui ne sont toujours pas élucidées. Donc nous publions une photo que vous risquez pas de voir ailleurs, et nous publions des remarques et des faits que vous ne risquez pas non plus de voir ailleurs sur cette créature de la presse People. Voilà, ce numéro, oui. Ce numéro 400, Serge, permettez-moi de dire aux lecteurs avides de lecture comment se le procurer. Ils envoient 5€ ou un carnet de timbres. S'ils veulent s'abonner pour un an, donc 3 numéros, c'est un décadaire, 3 numéros par mois, c'est 110€. À l'ordre de SDB, 4 Place France Liste, 75-010 Paris.
Merci Patrick. Jean-Pierre Rondeau, vous avez 5 minutes pour me dire si vous avez une opinion sur le chiffrage des candidats, des programmes des candidats, et ensuite, quelles peuvent être les conséquences sur le patrimoine des Français des élections, enfin de l'élection qu'on attend avec une impatience.
Sur le chiffrage des candidats, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'on a très envie de voter pour eux, puisqu'ils avaient, il y a 15 jours, leur programme était chiffré aussi bien pour Nicolas que pour Ségolène. Leur programme était chiffré à plus de 50 millions de dollars, d'euros.
50 milliards, pardon.
Milliards d'euros, hein, et qu'aujourd'hui, ils sont descendus pour Nicolas à 30 et pour Ségolène à 35, donc
n'est-ce pas raisonnable,
37 quand... même, je crois.
N'est-ce pas raisonnable, Jean-Pierre Rondeau, quand on sait que la dette publique est de 1200 milliards.
Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, donc d'avoir réussi à faire ces économies en 15 jours. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, le chiffrage des programmes ne veut rien dire. Ça veut rien dire, puisque ce sont, pour beaucoup d'éléments, ne sont pas chiffrables. Ce sont des promesses électorales. Derrière, il y aura la correction qui se fera à travers le fait qu'on est dans une économie complètement mondiale et qu'on est aussi dans l'Europe, et donc la plupart de ces promesses qui sont inchiffrables pour beaucoup quand on parle de aussi bien d'un côté que de l'autre. Par exemple, pour ne prendre que cet exemple, Nicolas Sarkozy veut faire 6 mois de service gratuit pour les jeunes pour remplacer le service militaire. Ségolène, je sais plus,
service civique obligatoire.
Service civique. Comment allez-vous chiffrer ce genre d'éléments?
Et la croissance, Jean-Pierre, la croissance.
Donc, oui, et la croissance, donc c'est pas chiffré par la croissance, ça veut dire chiffré par des éléments extérieurs à l'économie et au programme que peuvent se maîtriser nos candidats, puisqu'on sait très bien que la croissance aujourd'hui, elle est tirée par les pays extérieurs comme la Chine, comme les pays du Moyen-Orient, comme l'Inde, etc.
Ils sont très gaullistes, hein, l'intendance suivra.
Voilà. Donc ce sont des promesses et, voilà. Et je pense que c'est stupide de se battre là-dessus. Voilà.
Merci Jean-Pierre. On en parlera plus, plus en détail prochainement. Alors je signale que
notre divin marquis.
D'une part, oui, je vais parler du marquis tout de suite. Mais, je voudrais dire d'abord que dans le bouquin de Pierre Lance. Le numéro, je crois que c'est le troisième de Pierre Lance. Il y a un chapitre qui est consacré à Jean-Pierre qui s'appelle Savant maudit, chercheurs exclus. Il y a un chapitre qui vous est consacré.
Ah bon ?
Et je crois que vous êtes effectivement bien traité dans ce bouquin. Vous connaissez Pierre Lance, bien entendu. Chercheurs exclus, savant maudit, ça vous.
J'ai entendu parler.
Mais... C'est l'édition Très Daniel, non ?
Non, c'est pas Très Daniel. C'est enfin, peu importe, les auditeurs le trouvent facilement. Et il y a également un chapitre consacré à Makounine. C'est un auditeur de Houlgate qui nous signale ça. Et c'est d'autant plus pécamineux de ma part que j'ai le bouquin sur mon bureau. Je l'ai pas encore lu complètement. Je l'ai feuilleté, mais pas lu complètement. Vous voulez dire quelque chose?
Ben
vous,
oui, on a deux annonces. On ne pas se fâcher avec les gens quand même. Alors, nous sommes pris à la conférence débat qui aura lieu le lundi 19 mars 2007 à 18h30 à la salle de l'ASSIEM, appelée aussi Notre-Dame du Bon Conseil, 6 rue Albert de Laparent. Madame Christine Sourgin, historienne d'art, traitera le sujet suivant. Art contemporain, péril d'une mystification. Il faut rappeler aussi la conférence de Gérard Marin demain, jeudi 22 février à 19h30 au centre Charlier, 70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e, sur sa vie. Alors, il va donc, Gérard Marin, parler de sa vie de grand reporter au Figaro.
Quant à notre
débat. Et puis alors, oui, j'ai essayé de lui glisser, mais il ne veut absolument pas le lire. C'est une annonce qui nous dit que Jean-Paul Chériguez de Olmeta signera son livre. Mais ceci est une autre histoire, le jeudi 8 mars, c'est-à-dire demain.
Non, le jeudi 8 mars, voilà.
Pourquoi vous simplement, dire des bêtises, voilà, le jeudi 8 mars. Mais demain, c'est jeudi, mais c'est
Le jeudi 8 mars.
8 mars. De 18h à 21h au siège de la commanderie du Clos Montmartre, on va encore s'arsouiller joyeusement, 9 bis rue
Norvin.
Rue Norvin, 75018 Paris.
Merci,
chers
chef.
Auditeurs, nous allons laisser maintenant la place et la parole à nos amis du dictionnaire de la réplique, à savoir Bernard Anthony et sa nombreuse suite. Je vous dis, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Que Dieu nous garde, et je vous rappelle que vous pouvez entrer en contact avec Jean-Pierre Petit, soit par son mail par son site www.jp-petit.org ou www.savoir-sans-frontières.com ou par son mail, son adresse courriel qui est jp-petit1937@yahoo.fr. Que Dieu nous garde.
Merci de passer la soirée en notre compagnie sur Radio Courtoisie. Je vous rappelle notre rendez-vous de tout à l'heure, le Libre Journal de la Nuit, à partir de 21h30 en direct avec Paul-Marie Couteau, 21h30, 23h30 en direct. Tout de suite, la seconde partie du Libre Journal de Serge de Bekech, toujours en direct. Vous écoutez Radio Courtoisie, les 19h30.
Radio Courtoisie,
la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous écoutez le Libre Journal de Serge de Bekech en direct, diffusé en direct mercredi 21 février 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en écrivant à contact@radiocourtoisie.com.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Bernard Anthony au micro. Je remercie Serge de Bekech qui a chauffé la place. Je suis, comme souvent à l'émission de La Réplique, avec Jeanne Smith, directeur du journal Présent, avec Cécile Montmirail et avec David Fonté de Vox Gallier. Une actualité très riche ce soir, mais je souhaiterais que Jeanne Smith ouvre le feu.
Ah, alors si vous voulez que j'ouvre le feu, je vais plutôt vous passer la parole parce que je crois savoir que vous avez un coup de gueule à passer. Et le mien, je le pousserai un peu plus tard.
Bon.
Allez-y, Bernard.
Eh bien, écoutez, oui, chers auditeurs de Radio Courtoisie, heureusement que vous écoutez Radio Courtoisie parce que moi, dans ma province, il m'est impossible de le prendre. Et puis, je roule beaucoup aussi pour raison à griffe. Je suis souvent sur les routes de tribunal en tribunal. Alors, en ce moment, on dirait que les radios nationales sont confisquées absolument par les anciens 68ards. Alors c'est ainsi que j'ai entendu M. Krivine convier sur France Inter. Krivine est une autorité de la République, bien sûr on le sait. Il est dans une inauguration de métro, hein, donc c'est Krivine qui parle. Ensuite ce matin c'est Danny Combendit, donc qui est en quelque sorte la pitié, qui commente de la politique française avec toute l'autorité que lui confère ces mandats allemands. Ensuite, j'entends ce matin M. Miller, le psychiatre fou, le dingo Mao, hein, qui ne se repent de rien, qui dit « je ne me repens pas d'avoir été gauchiste », qui demande qu'on libère les gens d'Action Directe, ce qui est très bien, mais il y a beaucoup de gens aussi dont nous aimerions demander la libération, mais j'y viendrai. Alors, on se demande est-ce qu'il y a place pour d'autres, parce que je pourrais continuer comme cela. Alors, bien sûr, il y a une répartition, il y a les anciens trotskistes, ou toujours trotskistes, il y a les anciens maoïstes, parce que toujours maoïste c'est un peu plus difficile, les anciens anarcho-gauchos, hein, mais je crois que tout de même, le pluralisme dont on se targue tant dans notre république médiatique, eh bien, il n'existe pas. En réalité, il y a une confiscation. Alors, c'est mon coup de gueule. Et lorsque il y a des voix qui font entendre autre chose que le moralement abject du politiquement correct, c'est étouffé. Alors, il y a Dieu merci Radio Courtoisie, et je pense qu'on a déjà rendu l'hommage que mérite le grand rabbin de Lyon, hein, le grand rabbin Richard Wertenschlag. Je n'ai pas entendu sur ces radios nationales, à la télévision, que l'on ait beaucoup parlé de sa déclaration. Et pourtant, voilà un homme qui a l'honneur de sa fonction de défendre la morale naturelle qui est aussi la nôtre, car juifs et chrétiens, nous avons le texte commun de référence qui dit la loi naturelle, bah, c'est Dieu qui l'a dicté à Moïse sur le mont Sinaï, c'est le décalogue, plus connu sous le nom, sous le terme des 10 commandements. Alors le grand rabbin de Lyon a dit ceci, les homosexuels ont des problèmes médicaux de type génétique ou des problèmes de pulsion, il faut donc mettre des parapets, des limites, ou alors on devient une société décadente avec des zoophiles et des pédophiles. Bon, le grand rabbin, je dois dire, ne mâche pas ses mots. Peut-être, lui, il se réfère à la Torah. En tant que chrétien, je parlerai peut-être différemment, avec d'autres mots. Mais enfin, il y a aujourd'hui donc un tel, une telle avancée obsessionnelle du prosélytisme homosexuel que quelquefois, il faut quand même affirmer aussi qu'il y a une normalité. Et je crois qu'il a été parfaitement odieux par nos tribunaux de condamner le député du Nord très courageux Frank Van Est,
Christian
Van Est, pardon. Je pense que le grand rabbin de Lyon va être inculpé par la police de la pensée, mis en examen. Eh bien là, je crois que ça sera une occasion pour tous ceux qui se réfèrent à la loi naturelle de faire bloc avec le grand rabbin. Voilà mon coup de gueule ce soir, mais il y en aura d'autres peut-être au long de cette émission, cher Jeanne Smith.
À propos du grand rabbin, moi je peux vous dire que lorsqu'on publie sur Internet ou ailleurs, mais notamment sur Internet, ça m'a beaucoup frappé, des données sur les problèmes que peuvent rencontrer malheureusement les homosexuels sur le plan de leur santé, et il suffit de publier une statistique pour susciter des réactions extrêmement violentes de la part de la communauté gay qui suit ça de très très près, et c'est impressionnant. David Fontaine, je ne pense pas que vous me contredirez sur ce point.
Non, absolument pas Jeanne, et puis, mais tout va bien pour le rabbin pour l'instant, parce que je suis allé il n'y a pas très longtemps sur le site d'ACT UP, et il n'a pas encore été désigné à la vindicte de la communauté, donc ce rabbin est encore... protégé, voilà. Mais on s'attend évidemment à un procès en sorcellerie, et nul ne doute que tout ce lobby homosexuel qui surveille étroitement tout ce qui peut être dit, surtout dans les milieux religieux, va réagir très, très rapidement.
Mais enfin, nous saluons aussi, je dois dire, les déclarations courageuses de tous les dignitaires religieux de Lyon. Hein. Donc, nous avons dit pour le rabbin, qui est un rabbin vif, disons, mais ensuite, il y a cette déclaration qui est faite par le cardinal Barbarin, tous les représentants des églises, de l'islam, du judaïsme, et je crois que cela est très positif, parce qu'enfin, il faut quand même réaffirmer qu'un enfant vit heureux lorsqu'il a un papa, une maman, et qu'il y a quand même quelque chose d'absolument incroyable, que cette revendication de ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas, ça, nous avons toute la compréhension humaine, nous ne jetons pas la pierre, nous ne faisons pas d'exclusion, raciste à l'égard de ceux qui ont une forme particulière de sexualité, mais enfin, donc les enfants qui ne font pas, je ne vois pas pourquoi ils exigent de les élever. Il y a là quelque chose qui est parfaitement anormal. Là, je pense qu'il n'est pas besoin d'être juif, catholique, musulman, tout simplement, c'est l'ordre naturel des choses. Il y a des psychiatres parfaitement athées qui savent qu'il n'est pas normal comme ça de confier des enfants à l'éducation de gens qui ne bâtissent pas leur vie sur la complémentarité naturelle des sexes que constitue la famille.
Hélas, Bernard, je crois que vous avez mille fois raison, mais vous avez aussi quelque part tort, parce que de plus en plus, les nouvelles techniques de procréation éliminent la nécessité de recourir à un homme et une femme pour avoir un enfant, que ce soit par le clonage qui tôt ou tard finira par aboutir pour l'être humain, ou que ce soit par les inséminations artificielles ou les autres techniques de procréation qui permettent concrètement d'échapper à ce besoin naturel, si vous voulez, d'un père et d'une mère pour avoir un enfant, même si c'est par voie détournée et même si c'est en masquant parfois une réalité. Et là, je pense à ces couples de filles homosexuelles qui, tournant d'ailleurs la loi française, vont en Belgique se faire inséminer pour avoir des enfants. Et là, effectivement, le père est inconnu au bataillon. Si le donneur est anonyme, eh bien, on ne saura jamais qui c'est, ce qui, soit dit en passant, pose un autre problème que les accouchements sous X, dont on a dit que c'était terrible pour les enfants. Donc on a quand même un double langage, une double incertitude sur la filiation. On a un bouleversement total qui est extrêmement bien décrit par Jean-Pierre Dicasse dans son dernier livre que je voudrais conseiller vivement et qui s'appelle L'homme artificiel. On arrive à une situation où on n'aura plus besoin de la famille traditionnelle pour fabriquer des enfants, car ces enfants les fabriquent
pas
autrement.
Nous sommes là tout à fait dans Aldous Huxley. Je crois que c'est vraiment un très grand prophète. C'est le meilleur des mondes. Alors on sait très bien, on fabriquera les alpha plus, les bêta moins, parce que la manipulation génétique permettra donc tout. C'était évidemment l'instauration de l'eugénisme et il n'y avait pas besoin de faire une guerre pour cela. Je pense que le grand vainqueur aujourd'hui, ça va finir par être d'une manière posthume, Adolf Hitler et ses instituts de manipulation eugéniste. Nous y sommes, nous n'en sommes pas loin.
Et d'élimination des faibles.
Oui, sur cette question, il semble que la presse est titrée ces derniers jours sur une saine réaction qu'aurait eue la Cour de cassation concernant l'adoption d'un enfant par la petite amie de la mère réelle de l'enfant. Et pourtant, Jeanne, vous me disiez que ça n'était pas un si bon arrêt de la Cour de cassation.
Alors cet arrêt de la Cour de cassation, Cécile Montmirail, est effectivement très intéressant parce que il rejette l'adoption simple accordée à la compagne de la mère d'un enfant. En parlant de l'intérêt supérieur de l'enfant. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, tiens, quand même, il y a des gens à la Cour de cassation qui résistent, qui défendent le droit civil, le fondement de la famille. C'est ce que tout le monde s'est un peu dit. Cela dit, quand on va voir l'arrêt de plus près, c'est pas du tout ça. Car pourquoi a-t-on dit que c'était contre l'intérêt de l'enfant de le confier à la compagne de sa mère biologique? Eh bien, tout simplement, pour pouvoir mettre en place cette procédure d'adoption simple, il faut d'abord que la mère biologique renonce à son autorité parentale. Donc, fort justement, mais enfin, c'est quand même la moindre des choses, la Cour de cassation constate que c'est un mal pour l'enfant d'être privé de l'autorité de sa, du lien juridique qui l'unit à sa propre mère. Alors, comment tourne-t-on cela? Eh bien, actuellement, et des cours d'appel l'accordent déjà, on accorde l'adoption simple à la compagne qui n'est donc pour rien dans la génération de cet enfant, et puis par la suite, elle-même, cette mère adoptante, va partager son autorité parentale avec la mère biologique, mais qui n'aura plus de lien de filiation, qui ne donnera plus son nom, etc. Enfin, on arrive dans des situations qui sont juridiquement aberrantes. Alors, ce que dit la Cour de cassation, c'est elle constate que c'est une situation juridiquement aberrante. Mais elle ne dit pas du tout, voilà, il ne faut pas que deux femmes aient la possibilité d'être les deux mamans d'un enfant. Elle ne dit pas du tout ça. Elle suggère en réalité que l'on légifère afin que ces démarches juridiques un petit peu par la bande, un petit peu artificielles, ne soient plus nécessaires, qu'elles deviennent obsolètes et qu'on puisse effectivement évoluer vers une parentalité qui est le contraire, qui n'existe pas, mais qui serait donc réelle des deux mères ou de deux pères sur un enfant.
Un auditeur nous écrit, je suis très gay mais pas homosexuel, alors n'utilisez pas les mots venus d'outre-Atlantique, il a raison.
Ah, il a parfaitement
raison. Je n'utilise pas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais il a bien raison, cette confiscation de la gaieté qui est quelque chose de merveilleux, je pense d'ailleurs ça nous caractérise ici, c'est quelque chose d'absolument abominable, on peut plus dire je suis gay. Et pourtant, ben oui, chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, autour de cette table, nous sommes en général assez gays, sauf un peu ce soir, parce qu'on est atteint par quelques virus, grippaux ou autres, mais quand même, vous voyez, on est de bonne humeur.
Alors, sans compter que c'est le mercredi des cendres et qu'il faut se parfumer la tête et avoir un air joyeux.
Voilà.
Oui, non, vous l'avez dit, Jeanne, les attendus de... cette décision de la Cour de cassation sont très techniques et se fondent sur le droit, mais en réalité le combat va être de démontrer que les enfants ont une carence, celle d'un manque de père dans le cadre des couples de femmes. Et en ce moment, la LGBT, donc je vais redire un mot anglais, la coalition lesbienne, gay, bi, trans, s'acharne à démontrer justement que les enfants issus de couples d'homosexuels n'auraient pas plus souffert, ne seraient pas pire que les autres, seraient finalement des enfants normaux. Et je crois qu'il va falloir redonner toute la parole à des psychiatres et des pédopsychiatres qui démontrent justement que les carences éducatives et affectives sont vraiment démontrées.
Sans compter un problème d'identité qui a été clairement mis en avant par des études espagnoles au moment où l'Espagne a légalisé le mariage entre guillemets homosexuel. Je voudrais continuer deux secondes sur la campagne conquérante, galopante de l'anti-homophobie. Il y a eu la condamnation de Christian Van Est, bien sûr, en France, mais dans les pays voisins, on arrive à des situations absolument incroyables où, par exemple, en Angleterre, un conseiller municipal qui propose de promouvoir un logement qui puisse accueillir des familles et dénoncé comme homophobe parce qu'il ne faut pas donner la famille avec des enfants comme modèle à soutenir. Vous avez aux États-Unis deux employées chrétiennes noires qui ont voulu faire une association pour la défense de la famille traditionnelle dans leur emploi. Elles sont employées d'une ville de Californie. Eh bien, on les a rejetées également comme homophobes, tout simplement parce qu'elles parlaient de la famille naturelle. Elles ne faisaient rien de plus. Elles n'ont pas prononcé, ni de près ni de loin, un quelconque jugement sur l'homosexualité.
Même, disons-le carrément, ceci est exaspérant. Et maintenant, il faut la révolte du bon sens. Et je crois qu'il va falloir manifester en politique, d'une manière très ferme, très vigoureuse, dans ce ras-le-bol d'une dictature tout de même. Donc d'un lobby, car là il s'agit bien d'un lobby, donc qui veut imposer ses valeurs, eh bien nous avons d'autres valeurs, et nous avons des valeurs enracinées dans quelque chose qui s'appelle la nature humaine, et dans, comment dirais-je, des siècles, donc de civilisations très diverses au demeurant, et je crois que pour cela, encore une fois, j'insiste bien, que des voix de religieux se soient fait entendre, enfin.
Il y a quelque chose de comparable à ce que vous avez dit au début d'émission, Bernard. Vous parliez justement de ce trotskisme médiatique. Il y a aussi une présence d'élites qui appartiennent à cette communauté gay et homosexuelle et qui font valoir leurs revendications. Et c'est vrai que ça va être très, 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 très difficile parce que, évidemment, ceux qui, comme nous, défendons la famille traditionnelle, subissons l'opprobre et sommes ringardisés de facto.
Nous sommes suspects d'avance. Si je peux me permettre encore une incise, Pays-Bas, il y a un jeune de 14 ans, un garçon boutonneux, un adolescent qui s'est découvert homosexuel il y a un an et demi, donc il avait 12 ans et demi, en s'apercevant que c'était quand même pas mal d'embrasser un type. Il avait aussi essayé avec les filles, mais c'était aussi bien, donc voilà. Eh bien, il participera à la Gay Pride Amsterdam. Le maire d'Amsterdam a voulu en exclure les jeunes. Il veut un char avec des jeunes de 11 à 16 ans. Eh bien, pourquoi a-t-on fini par l'accepter? Tout simplement parce que des parents de certains enfants, de certains ados qui voulaient participer à cette manifestation d'une décadence quand même extrême, on dit, nous sommes derrière nos enfants, c'est ce qu'ils ont dit en termes exacts, et nous serons avec eux, et donc nous voulons bien qu'ils défilent, et cette affaire marginale, ça concerne peut-être 20 jeunes, eh bien elle a été montrée à la télévision, aux informations officielles, qui sont organisé, payé par l'État néerlandais, c'est comme la télévision d'État, et bien ces informations ont été données à la télé nationale pendant le quart d'heure consacré aux jeunes de 9 à 12 ans. Alors la décadence est quand même d'une perversité qui dépasse ce que on aurait même pu imaginer il y a 5 ans.
Alors l'organisation de la Gay Pride à Amsterdam a été gênée aux entournures parce que l'un des organisateurs était très mêlé au milieu pédophile, et justement c'était l'un de ceux qui avait appuyé
très bien, quand on voit sur des chars avec des voiles vaporeux, comme j'ai vu, parce que ça défile sous les fenêtres de nos bureaux au Centre Charlier, quand on voit les enfants sur des chars, la façon dont ils sont en quelque sorte représentés là-dedans, on voit très bien donc que hélas il n'y a pas que, j'allais dire, de l'homosexualité donc entre adultes, et il y a aussi autre chose, voilà.
Oui, je voulais juste donner une petite lueur d'espérance dans cet océan de choses perverses, parce que oui, Bernard, on peut, comme vous le dites souvent, on peut lutter. Preuve en est que un de mes amis qui lutte aussi contre cette dictature homosexuelle s'est opposé sur un plateau de télévision à François Bayrou sur cette question. François Bayrou qui lui expliquer que il fallait comprendre et que on pouvait très bien, que les homosexuels pouvaient très bien aimer leurs enfants et que oui, lui-même avait évolué sur cette position et donc il donnait des chiffres qui étaient en fait des chiffres des lobbies homosexuels en disant qu'il y avait entre 300 et 400 000 enfants qui étaient élevés aujourd'hui par des couples homosexuels. Et donc Franck lui a dit mais ces chiffres sont les chiffres des lobbies homosexuels, ça n'est pas des vrais chiffres. Il a donné les chiffres officiels des instituts et quelques jours après, François Bayrou a changé sur son site les chiffres. Alors c'est peut-être anecdotique parce que je pense que ce monsieur, je parle de Bayrou, est quand même acquis à l'adversaire, hein, preuve en est son évolution actuelle, mais quand même, les personnes qui vont désormais sur ce site, parce que Franck Juillet a bataillé sur une émission, eh bien, ont la vérité. Donc, à nous de marquer notre terrain et de continuer à dire ce qui est vrai.
Mais il faut dire aux auditeurs de Radio Courtoisie que grossir des chiffres, c'est une tactique toujours habituelle lorsqu'on veut introduire un changement de société. L'avortement, c'était la même chose, les avortements clandestins, il en va de même pour les couples homosexuels ayant des enfants.
Alors nous sommes bien sûr dans l'émission de la réplique et Bernard, je me tourne vers vous car il y a eu ce mardi 20 février dans le Figaro un grand article avec un titre incroyable, je le cite, sur la Pologne, l'épuration bat son plein à Varsovie. Alors Bernard, vous avez lu cet article et c'est quand même incroyable que l'on reproche à la Pologne de faire un travail comment peut-on qualifier ça d'épuration?
Oui, c'est absolument suffocant. Parce qu'enfin, tout de même, on traque encore les derniers barbichus nazis. On fait une épuration du nazisme dont depuis maintenant, ça fait combien, 60 ans, dont elle n'a jamais cessé. Et pourquoi pas, le nazisme était un système monstrueux. Il n'est jamais venu à l'idée de quiconque de reprocher à l'Allemagne la dénazification ou à la Pologne d'ailleurs puisqu'elle avait été occupée ou au pays où il y a eu des collabos, et on voudrait qu'il n'y ait pas de décommunisation. Alors je vous voudrais évoquer tout de même ici quelque chose qui me tient à cœur, c'est que le tribunal international pour juger du communisme n'a hélas toujours pas eu lieu. J'en ai été l'initiateur avec une journée dont de ce que ça aurait dû être pendant des années. Il s'agissait de prendre un point particulier de l'abomination communiste, c'était l'abomination du camp 113, donc dans lequel le commissaire politique torsionnaire Boudarel exerçait ses talents. Le communisme, donc, a tué, selon les bilans aujourd'hui que plus personne ne conteste, donc entre 100 millions directement et 200 millions indirectement de personnes dans le monde, de 1917 à aujourd'hui, puisqu'il vit toujours. Dans ces pays de l'Europe de l'Est, il y a eu évidemment des collaborateurs du communisme à des degrés divers. Il y a eu des agents, il y a eu des tortionnaires, il y a eu des exécuteurs. Je voudrais rappeler tout de même ici les chiffres non contestés. Ce sont ceux du livre noir du communisme qu'il faut avoir lu, qu'il faut avoir dans sa bibliothèque. Il faut rendre hommage à un ancien maoïste, Stéphane Courtois, d'avoir fait ce travail de mémoire. Alors lui, oui, il a fait sa repentance. Il faut rendre hommage à Annick Rigel, qui était, je parle pour les plus jeunes qui nous écoutent, cette admirable femme qui avait été stalinienne, qui s'est aperçue de la monstruosité de ce à quoi elle avait participé. Elle était, elle, au Figaro, mais il n'y a plus une plume comme celle d'Annick Rigel au Figaro, hélas. Elle était éditorialiste à l'Arche, la revue juive, et donc il faut saluer ici ce travail d'Annick Rigel, de Courtois, de beaucoup d'autres, sur ce qu'a été le communisme. Alors, tout de même, quelques chiffres. La Grande Terreur, c'est un livre qu'on trouve en collection de poche aujourd'hui. Les seuls exécutés par une balle dans la nuque du fait du KGB, 800 000. Uniquement, donc, ceux qui passaient par un interrogatoire et qu'on ne revoyait plus jamais vivants. Ça se passait à la Loubianka. Mais il y avait de la Loubianka à Varsovie. en Pologne, dont le communisme, ça a été cette oppression terrible, cette terreur sur la Pologne, et on reproche donc à la Pologne, tout de même, d'essayer de faire justice. Alors, on rêve, hein, on a encore entendu un tombereau de dénigrement de ce lampiste qui était papon, hein, parce qu'il était sous-préfet. Bon, je m'étonne d'ailleurs que ses avocats n'aient pas pu parler aussi. Moi, je ne défends pas papon, je ne l'admire en rien, mais je ne l'admire pas plus pour son action de gaulliste, anti-OS qu'il fut, que pour ce qu'il avait fait, je n'en sais rien. Mais enfin, tout de même, il faudrait une logique. On ne peut pas à la fois, encore et encore, condamner Papon est refusé à la Pologne de faire mémoire sur son passé parce que
il y en a eu
tout de même des papons en Pologne, beaucoup, hein, dont des papons du communisme, hein. Je rappelle donc que la Pologne a vu le génocide de ses juifs, mais a vu le génocide aussi le massacre de beaucoup de Polonais, et cela s'est poursuivi. Alors il est indigne qu'un journal comme Le Figaro titre son article « L'épuration bat son plein », hein, donc en parlant de lecture manichéenne de l'histoire, mais en fait la lecture manichéenne de l'histoire, c'est que Lénine a créé la Tchéka, la terreur, que Trotsky, et oui, le Trotsky si cher, c'est lui qui a mis en place avec Dzerzhinsky le goulag, c'est lui qui a mis en place la terreur. Je travaille en ce moment sur un livre dont je reparlerai bientôt, dont j'évoque cette chose-là. Trotsky, c'est l'élimination des marins de Kronstadt, d'ailleurs, les marins du Potemkin. Tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Non, ils ont été fusillés. Et puis ensuite, ça a été les exterminations sans fin, l'Ukraine, les famines organisées. Il fallait tuer les coulages parce qu'ils étaient des coulages. Hein, c'est-à-dire, c'est le crime contre l'humanité par excellence. Le communisme a fait du crime contre l'humanité sans arrêt. Hein, parce que qu'est-ce que c'est qu'un crime contre l'humanité? C'est le crime dont qui pèse non pas pour ce qu'a fait quelqu'un, mais pour ce qu'il est. De la même façon que les nazis tuaient des juifs pour ce qu'ils étaient juifs, les communistes tuaient des coulaques, c'est-à-dire les petits paysans pas trop pauvres, enfin les paysans moyens, parce qu'ils étaient des coulaques. Alors, la Pologne a le courage de vouloir faire quand même le bilan. Il ne s'agit pas de pendre, on ne fait pas du Nuremberg. En Lituanie aussi, il y a eu, heureusement, c'est en Lituanie qu'il y a eu un procès. Mais je pense que les Polonais, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, je sais qu'il y a des Français d'origine polonaise qui nous écoutent, eh bien, je crois qu'il faut refuser la désinformation qui bat son plein. C'est pas l'épuration qui bat son plein en Pologne, c'est la désinformation qui bat son plein en France. Les Polonais ont raison de vouloir ouvrir donc le tribunal du communisme. Et ça serait un travail d'historien que de faire ce grand travail, encore une fois, je me répète, pardon, donc de mémoire.
Alors Bernard, comment vous expliquez justement qu'il y ait autant, qu'il y ait ce courant de sympathie, y compris dans les journaux conservateurs, envers le communisme, envers les communistes? Comment vous expliquez finalement qu'en France, il y ait ce prestige du communisme, y compris le pire des communismes, le communisme de ces époques-là, de cette époque-là?
Oui, parce que je pense que le Parti communiste aujourd'hui, en tant que force électorale, n'existe plus, plus beaucoup, mais il garde ses relais. Et au fond, il n'y a pas eu de... Quand Bernard-Henri Lévy dit « nous en sortons », hein, il dit « je ne le suis plus, mais nous en sortons ». Quand Konobniti dit ben, « le communisme, c'est notre aventure », hein, je pense qu'ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont eu tort. Et là, je crois qu'il faut saluer Annick Rigel aussi, qui a traité admirablement de ce Yiddishland révolutionnaire, à ne pas confondre avec l'ensemble de la communauté juive, mais qui a joué un grand rôle. Souvarine a traité de cela, de bien des écrivains juifs sur le sujet, ils ne veulent pas accepter le fait que eux aussi devraient se repentir. Et c'est ce que nous disons, nous. Je crois que l'Église catholique a su, parce qu'elle est une personne morale, une personne historique, a su, et on pouvait discuter d'ailleurs, c'était très discutable, que certaines repentantes sur certains points. Mais l'Église catholique a su dire, au nom du catholicisme, que certains ont commis des fautes historiques ou des crimes, etc. Mais donc il faudrait aussi que les gauchistes, enfin, parce que j'ai cité tout à l'heure Miller, bon, il est emblématique, mais même ceux qui ont viré leur cutie, les Glucksmann, les Finkielkraut, les Bernard-Henri Lévy, il faut eux aussi qu'ils disent nous avons eu tort, parce qu'ils tiennent le haut de du pavé, j'allais dire, le haut des médias, mais qu'est-ce qui se passerait, monsieur Miller, si quelqu'un disait j'ai été nazi, je ne me repens pas, hein, et qu'il parle comme ça avec une telle autorité. Or, avoir été complice de Mao, hein, alors qu'on savait parfaitement ce qu'il en était, c'est la même chose que d'avoir été collabo ou complice de Hitler. Enfin, ce n'est pas moi qui donne ces chiffres-là, hein, c'est Souvarine, fondateur du Parti communiste français, dans son Staline, rien que Mao, c'est entre 50 et 60 millions de morts. Donc, ça, ces chiffres-là, évidemment, ça ne dit plus rien, parce qu'on ne voit pas la réalité, à quoi ça correspond. Alors, la réalité, quelle était-elle? Pour ce livre, j'ai retrouvé, par exemple, les déclarations du colonel Weinberger. Le colonel Weinberger est un héros de l'armée française. C'était un petit juif hongrois qui a connu Auschwitz, rescapé d'Auschwitz, qui ensuite, donc, est venu en France, s'est engagé dans la Légion étrangère. Il s'est engagé dans la Légion étrangère et il a fini, il l'a pas fini d'ailleurs, Dieu merci, c'est incroyable, comment cet homme a-t-il vécu? Il a été au camp 113. Il dit la différence entre Auschwitz et le camp 113, c'est qu'au moins au camp 113, à Auschwitz, on ne m'obligeait pas à chanter de la gloire des bourreaux. Tandis qu'au camp 113, comme au camp numéro 101, etc., comme dans tous les camps du communisme, en plus, il fallait chanter la gloire des bourreaux. Alors, moi, je suis suffoqué, hein, suffoqué que des gens, comme ça, dans les radios, puissent s'exprimer en revendiquant, avec une certaine morgue, un certain orgueil. Oui, on a été maoïste, oui, on a été pour l'oncle O, oui, on a été pour Staline, et ils ne s'en repentent pas. Eh bien, je crois qu'il faudrait quand même les moucher, et en tout cas, leur demander un peu de pudeur.
Alors au-delà du cadre français, on a vu aussi l'année dernière qu'il était très 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 difficile de faire reconnaître dans les instances internationales comme le Conseil de l'Europe cette réalité du communisme, puisqu'on n'a pas réussi à faire condamner par le Conseil de l'Europe, puisqu'il faut la majorité des trois quarts, le communisme.
On a réussi à la majorité, mais pas à la majorité exactement qualifiée.
Et puis, il y a eu l'escroquerie historique du Parti communiste. Alors, l'escroquerie historique, elle est là, sous mes yeux, avec une page du journal Le Monde, une bonne page pour une fois, hein, consacrée donc à un livre qui est paru sur donc quand le Parti communiste français négociait avec les nazis. Bon, donc là, le rôle du Parti communiste français, il faut le rappeler, il a d'abord été en rôle de suivi de l'accord Staline-Ribbentrop, donc il a été en rôle de collaboration, puisque c'est Jacques Duclos qui négociait avec Otto Abetz la reparition de l'humanité clandestine qu'il fallait légaliser à nouveau. Alors ensuite, lorsque Staline donc et Hitler ne sont plus ont rompu leur pacte, à ce moment-là, le Parti communiste est rentré dans la résistance. Mais il faut quand même rappeler ceci, c'est que les réseaux de résistance, la véritable résistance, je ne juge pas ensuite des comportements, il y avait ceux qui croyaient servir la patrie avec le maréchal, ceux qui servaient donc dans la résistance, ceux qui servaient donc d'une autre manière encore. Mais enfin, le début de la résistance, c'est le colonel Rémy, que j'ai connu, hein, donc il venait de l'Action française, c'est tous les anciens cagoulards qui ont organisé les réseaux de résistance, c'est notre ami Jean-Baptiste Biaggi, etc., etc. et je veux saluer ici, tiens, l'ami que j'ai perdu avant-hier, le docteur Jean-Jacques Plat à Castres, que j'évoque, qui est évoqué dans le film sur les 25 ans de Saint-Charlier. C'était l'homme le plus distrait du département, médecin anesthésiste, le plus chargé de décoration. Il avait sauté le premier avec les SAS du colonel Stirling sur notre sol. Il a été un de ceux qui, pendant 65 mois, m'ont aidé à faire présent mensuel, et donc c'était un homme d'un courage et qui n'aimait pas, il n'aimait pas parler, or on savait qu'il était un héros légendaire. Alors la résistance au début c'était cela, le Parti communiste rentre ensuite en résistance, va se targuer d'être le parti des 75 000 fusillés, ce qui est une escroquerie. C'est dans le journal Le Monde, hein, Pierre Besse et Thomas Pupponti maintenant ont fait le point, hein, dont il y a eu très exactement, hein, donc c'est donc très très exactement les fusillés, répression et exécution pendant l'occupation, édition de l'Atelier, c'est un livre qui vient de sortir, hein, il y a eu exactement 4520 personnes fusillées pendant la guerre en France, dont 80%, dit-on, de communistes. C'est beaucoup, c'est énorme, c'est beaucoup trop. Mais le Parti communiste, dont s'est fait gloire d'être le parti des 75 000 fusillés, il en a ajouté plus de 70 000 à la réalité. Et la réalité aussi, c'est que le Parti communiste a profité de la libération pour fusiller beaucoup, hein, et pour fusiller des gens qui n'étaient en rien des collabos, en rien des traîtres, hein, parce qu'il fallait faire la révolution à cette époque-là. Alors je crois que le drame, voyez-vous, c'est que le Parti communiste garde ses complices, ses compagnons de route, ses courroies de transmission, et que l'anticommunisme est toujours une chose nécessaire. Il faut rappeler, il faudrait des feuilletons à la télévision. Mais pourquoi on ne voit jamais à la télévision Mazagan, la presqu'île de Mazagan, où il y avait des dizaines de camps d'extermination? Pourquoi on ne voit jamais à la télévision dont les restes du goulag enfouis? Il y aurait sûrement beaucoup de choses à passer.
Par contre, vous faisiez remarquer sur votre blog qu'on voyait des séries sur les chaînes publiques représentant de gentils camarades.
Ah oui, cela est extraordinaire, enfin. Hein, sur nos chaînes aujourd'hui, dans la France de M. Chirac, ça c'est pas étonnant, parce que M. Chirac ne s'est jamais repenti d'avoir été un militant communiste. Et je pense que cela explique beaucoup de choses. Mais enfin, c'est le ministre de l'Intérieur, c'est M. Sarkozy. Donc le Premier ministre, c'est M. de Villepin. Bon, le gouvernement doit quand même avoir une action mémorielle. Hein. Alors, moi, je suis tout à fait partisan pour que l'on se souvienne, et les Juifs notamment, mais pas que, se souviennent de ce qu'a été le nazisme. Mais pourquoi cette occultation? Pourquoi ce racisme? Hein. Parce qu'enfin, les Cambodgiens sont des hommes aussi. Hein. Au Cambodge, la moitié de la population a été exterminée. Alors, voyez-vous, dans ce livre qui va paraître, je fais une mémoire de tous les génocides. Mais je n'en exclus aucun. Alors, cela est une nécessité. Souvent, des amis me disaient « Mais pourquoi tu fais de l'anticommunisme aujourd'hui ?» Eh bien, je fais de l'anticommunisme parce que les communistes sont toujours là et n'arrêtent pas de faire du pro-communisme, n'arrêtent pas de faire du révisionnisme, n'arrêtent pas de faire du négationnisme. Hein. Donc, ils banalisent l'abomination communiste, et ils nient donc l'enfer des goulags, des exterminations, les famines. Et ben moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut faire réellement, d'un point de vue culturel, pour l'honneur de l'humanité, il faut lutter contre ce révisionnisme, ce négationnisme communiste.
Et je crois qu'il y a aussi une explication, et on la trouve dans le chapeau de cet article sur l'épuration qui bat son plein à Varsovie, puisqu'il y est dit « La décommunisation vire à la chasse aux sorcières, on vient d'en parler, une arme politique dont usent les frères Kaczynski pour éliminer leurs rivaux ». Or, que fait aujourd'hui le gouvernement polonais, qui est un gouvernement de droite? Eh bien, il défend la famille, il défend la patrie, il défend des valeurs auxquelles nous sommes, nous aussi, très attachés. Et je crois que c'est ça, surtout. C'est qu'ils ont un ennemi commun, et cet ennemi commun, c'est la religion catholique, et puis c'est toutes les valeurs traditionnelles et le décalogue auquel vous faisiez allusion. Et dans tous les articles, c'est toujours la même chose. C'est que si le gouvernement polonais ose s'attaquer aux communistes, c'est parce qu'il veut éliminer ses ses ennemis ou ses adversaires parce que le peuple polonais vivrait difficilement le fait qu'ils aient un gouvernement qui ait des positions très tranchées, Dieu merci, sur les valeurs auxquelles nous sommes attachés.
Eh bien, il y a eu la dénazification et il faut maintenant la décommunisation. Voilà.
Alors, il y a quelques remarques, bien sûr, Bernard, à vos propos. Alors, il y a un auditeur qui vous demande où est-ce qu'on peut vous écrire, Bernard Anthony, où peut-on écrire à Bernard Anthony?
70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. Alors, s'il vous plaît, cher auditeur, bien sûr, je lis toujours le courrier. Je ne suis pas étoffé beaucoup en secrétariat, je réponds très peu. J'aime souvent téléphoner. J'aime bien recevoir du courrier avec le numéro de téléphone, parce que quand la lettre est pertinente, j'aime bien un contact, comme cela. Moi, je me bats à visage découvert, on sait toujours où me joindre, et j'en profite pour dire, tiens, que j'ai l'impression, je citerai pas, que quelquefois on m'utilise un peu dans ce petit monde des blogs que je ne connais pas du tout. Je rappelle...
Si vous le connaissez, Bernard, puisque vous avez votre propre blog, quand
oui,
même.
Oui, d'accord, mais c'est vous qui m'aidez bien, hein, Cécile et David. Mais moi, je tiens à dire ceci, très solennellement, c'est que tout ce que je pense, tout ce que j'écris, je le signe, et en général, tout ce que je dis, c'est ce que je pense. Voilà, c'est une petite allusion, certains comprendront, donc qu'on n'aille pas chercher chez moi quelques influences donc sur des écrits anonymes que j'allais être. Je tiens les gens qui font de l'anonymat pour des ravisqueux. C'est pas mal ça, non?
Oui, c'est pas mal.
Ça va, c'est pas mal ça.
Ravisqueux, c'est... Oui, c'est...
Voilà, alors si je faisais des blogs anonymes, je serais un ravisqueux, voilà.
David, peut-être vous pouvez rappeler l'adresse de Bernard Anthony sur le net?
Alors, vous pouvez lire quasi quotidiennement Bernard Anthony sur son blog. Alors, à Bernard en minuscule tiret intermédiaire anthony.blogspot.com. Mais vous faites une recherche sur Google et vous l'avez tout de suite.
Oui, je crois qu'on peut réagir à vos propos d'ailleurs, vous envoyez des posts.
Oui, alors je tiens à dire aussi que David Fonté me demande, avec raison, mais j'ai beaucoup d'activités, je suis l'un de Paris, je ne réponds pas. Moi, je dis ce que j'ai à dire, et puis ensuite, je réplique à l'actualité, mais qu'on me pardonne, je ne peux pas. Je n'ai pas les moyens de vivre sur un ordinateur, ce sont mes amis qui font cela. Je m'exprime parce que je représente la griffe, parce que je représente Reconquête, Chrétienté, Solidarité, mais ensuite, je n'ai pas les moyens et je n'ai pas d'école de laborateur pour répondre. Je demande qu'on veuille bien me pardonner. On trouvera, je pense, dans les heures qui viennent, donc sur mon blog, ma position pour les élections présidentielles. Cela éclairera la façon dont j'aborde ces élections.
Vous avez évoqué à l'instant, Bernard, votre rôle ô combien important dans la griffe. Et je pense que c'est une bonne transition pour que vous nous disiez un peu quelles sont les dernières affaires de la griffe, car on a vu dans le sud de la France notamment, beaucoup d'églises ont été brûlées. Est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs comment la griffe a réagi à tout cela?
Oui, elle réagit avec détermination, avec des moyens un peu faibles, parce que cela coûte très cher. Je le dis aux adhérents de la griffe qui sont très nombreux à m'écouter, combien je leur céderai de maintenir leur adhésion, d'en faire des nouvelles, parce que eux sont au courant. Hein, ça n'est pas si simple, il faut verser des consignations. Nous avons affaire à des magistrats très difficiles, et je suis très modéré dans ce propos. Alors, il y a une série absolument incroyable, notamment... En Provence, en Provence, Alpes-Côte d'Azur, d'incendies, de dévastation d'églises. Il y en a eu encore à Roquevert la semaine dernière. Systématiquement, nous allons sur le dossier. Systématiquement, nous nous portons partie civile. Je dois dire que j'ai été un peu attristé de ce que une autorité religieuse ait jugé bon de préciser qu'il ne recommandait pas la manifestation de la griffe. De quoi il se mêle? La griffe est une Alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française. française et chrétienne, n'a pas d'autre autorité sur son fonctionnement que celle des laïcs qui l'animent. Nous avons retenu cela de bon du Concile Vatican II, c'est la promotion du laïcat. Hein. Donc les évêques s'occupent de leur propre association, qui au demeurant ne fait pas grand-chose. Mais ce que je remarque tout de même, c'est que quand la griffe manifeste comme nous l'avons fait dans les rues de Nice, il faut donc en quelque sorte qu'il y ait une voix épiscopale pour dire qu'elle ne nous cautionne pas. Hein. Et même, on lit dans Nice ce matin que nous versons de l'huile sur le feu. Mais je rêve quand d'autres édifices catholiques sont la cible d'actes quelquefois d'ailleurs manipulés. Hein. Le dossier n'est accablant. Immédiatement, il y a les réactions de tout le monde. Si c'est, et je comprends qu'on réagisse, si une synagogue dont est incendiée comme celle, mais il y avait eu là quelques... On s'était précipité un peu vite. Hein, je fais allusion à la synagogue de Villepinte où quand une mosquée est incendiée, tout le monde se précipite. Mais pourquoi est-il interdit de réagir quand une église est incendiée? Mais ce racisme aussi est insupportable, je le dis là une fois de plus, en tant que catholique et français. Dieu merci, il y avait beaucoup de monde dans la rue à Nice. Nous sommes sur le dossier, nous sommes sur tous les dossiers et nous manifesterons dans la rue chaque fois qu'il le faudra pour appuyer l'action devant le tribunal par une action militante de plus en plus forte.
Oui, Bernard Anthony, je voulais intervenir sur cette question des chapelles qui sont incendiées, où la griffe a une difficulté très forte pour agir, parce qu'elle peut agir de deux manières, soit en se portant partie civile dans une procédure déjà entamée par le parquet, soit en actionnant elle-même la justice. Cette deuxième procédure lui assure le développement du dossier, la procédure avec sa présence, mais c'est beaucoup plus onéreux. Donc la griffe essaye souvent de se joindre à une action publique existante, et là, on lui met des bâtons dans les roues. Oui, vous avez l'affaire de Saint-Hugues-du-Hal, la petite merveilleuse petite chapelle baroque bretonne qui a été incendiée par deux jeunes satanistes. On les connaît, ils ont avoué avoir agi en haine de la religion, ils avaient participé à une virée qui avait frappé des symboles chrétiens, uniquement des symboles chrétiens. Eh bien, la griffe est en train d'être déclarée irrecevable parce que l'une de ces personnes mises en examen a déclaré avoir agi en haine des religions, comme si la griffe ne pouvait pas intervenir autrement que pour des catholiques. Là, c'était directement les catholiques, en outre, qui étaient visés.
Ah, c'est révoltant, et je précise encore, cette affaire de Saint-Hugues-du-Hal est suffocante, hein, qu'un magistrat ose effectivement proférer de telles énormités, mais on a eu mieux, je m'attendais pas. Marseille. Alors à Marseille, de quoi s'agit-il? À Marseille, des jeunes maghrébins. 11. Ils ont été arrêtés. Donc 11 jeunes maghrébins, je ne sais pas s'ils sont toujours en prison, je doute. Donc incendient une chapelle. Ils incendient une chapelle. Pourquoi? Parce qu'ils avaient été expulsés d'un magasin qu'ils squattaient pour en faire un lieu de prière. Alors je précise que tout de même, à Marseille, la communauté musulmane dispose de plusieurs centaines de grandes mosquées, mais aussi de plusieurs centaines de lieux de prière. Mais enfin, donc, ils sont expulsés d'un magasin. Et ils vont pour cela, pour protester, ils incendient une chapelle catholique. Et la griffe, naturellement, rentre dans le dossier. Et le magistrat conclut que ces jeunes-là ont mis le feu à la chapelle catholique, mais ça ne prouve pas que ce soit par racisme anti-chrétien. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Imaginons aussi l'inverse. Hein. Est-ce que si un jeune va mettre le feu à une mosquée, s'il dit c'est pas du tout par racisme anti-musulman, c'était histoire de faire un joli feu pour épater les copains, est-ce qu'on va le croire? Eh bien là, ils sont 11. Hein. Ils tiennent ce raisonnement et on nous dit donc on ne peut pas vous accepter. Alors, je vous rassure, nos avocats continuent, mais ça va nous coûter très cher.
J'en profite justement pour dire à nos auditeurs qu'ils peuvent adhérer à la griffe pour seulement 10 euros ou 16 euros quand ils veulent être un adhérent, supérieur, c'est-à-dire qui nous aide davantage. Et donc pour cela, ils peuvent envoyer un chèque à l'ordre de la griffe au 70 boulevard Saint-Germain, 75 005. Paris. Donc n'oubliez pas, adhérer à la GRIF, ça permet à la GRIF de mener les procédures et de défendre l'identité chrétienne et française.
C'est une question de moyens. Je voulais revenir sur l'adhésion à la GRIF. Il me semble évident que bien plus que n'importe quelle autre officine antiraciste type LICRA, LDH ou MRAP qui ont quand même l'oreille des pouvoirs publics, la GRIF ne l'a pas, l'oreille des pouvoirs publics, il faut bien le dire. Eh bien, la GRIF aura un poids d'autant plus important qu'il aura plus d'adhérents, parce que ça fait impression quand même. Et donc là, je crois que sur ces dossiers-là, c'est chaque Français qui a une parcelle de pouvoir et qui doit l'exercer en se manifestant, tout simplement, en adhérant à une association qui le défende.
Non, mais je trouve ça très très triste d'ailleurs qu'un dignitaire de l'Église de France ait ce genre de préjugés à l'égard de la GRIF. Les gens de la GRIF, finalement, ils ne font que vivre une parole de l'Écriture. L'amour de ta maison fera mon tourment. Voilà ce que sont les militants de la GRIF qui, à Nice, sous la pluie, se réunissent à plusieurs centaines pour dire justement qu'ils refusent cela. Et l'Église de France devrait être très très attentive à ce qui se passe d'ailleurs en Italie, parce que là encore, la GRIF mène un combat d'avant-garde. En Italie, les profanations se développe de manière exponentielle, les incendies d'église également, et donc le milieu de la France est particulièrement touché. Quand ces jeunes disent qu'ils agissent par haine des religions, ce n'est pas vrai. Le satanisme, tel qu'il se développe dans le milieu du métal et du hard rock chez les jeunes, cultive cette haine absolue du catholicisme. Voilà. Donc la GRIF a vraiment un rôle de premier plan, et donc les chrétiens, les catholiques de ce pays, par-delà leur sensibilité, traditionnaliste ou quoi, ils doivent soutenir la GRIF, parce que il n'y a que la GRIF pour défendre justement nos églises.
À propos de cette mode gothique, on peut peut-être glisser vers la loi de protection de l'enfance qui a été votée et qui va être définitivement adoptée probablement demain, jeudi, à l'Assemblée nationale. Eh bien, cette loi de protection de l'enfance, il faut en parler parce qu'elle représente une grave menace pour les familles. Mais avant d'entrer dans le sujet, il faut signaler qu'à la faveur de cette loi, on a étudier les sectes. Et il y a eu une commission d'enquête de l'Assemblée nationale menée par Georges Fenech, UMP, qui a pondu un important document sur le pouvoir des sectes en France. Alors, on a beaucoup parlé de phénomènes marginaux, des chrétiens qui essaient de vivre comme les premiers chrétiens. C'est l'affaire de Tabitha's Place qui va permettre de mettre un peu plus encore de pression sur les écoles véritablement libres et véritablement catholiques, notamment. Mais dans ce rapport, ce dont on a très peu parlé, il y a d'importants paragraphes qui sont consacrés à la mode gothique et au ravage que cette véritable secte, et elle est dénoncée en tant que telle par le rapport, sur les ravages que cette secte provoque parmi les adolescents, les jeunes, qu'elle pousse au suicide, qu'elle pousse aux atteintes anticatholiques dont vous avez parlé, David Fontey. Cet aspect-là du rapport Fenech, eh bien, n'a donné lieu à strictement rien. C'est-à-dire que dans les bacs de la FNAC et ailleurs, vous avez toujours la musique heavy metal, vous avez toujours le rock sataniste, vous avez toujours la culture gothique qui est mise en avant, qui a été mise en avant dans des publicités du Figaro. La mode gothique est quelque chose, c'est un phénomène culturel respectable, s'il faut en croire le Figaro. Eh bien non, ça, je crois que on a là une preuve que quoi que l'on dise, si l'on laisse les pouvoirs publics décider de ce qui est secte ou non, eh bien, il y a des sectes qui continueront de proliférer et de faire des dégâts, et d'autres que l'on traquera alors qu'elles n'en sont pas.
Un dernier mot sur cette culture gothique. Je crois qu'il est très très important de dire quelque chose qu'on ne dit jamais, c'est que cette culture gothique, cette musique, eh bien, fait surtout touche beaucoup nos jeunes Européens de souche. Et elle est porteuse vraiment d'une mort culturelle, puisque on ne verra jamais. Ça se segmente très très clairement, la musique en France chez nos jeunes. Et regardez bien qui sont les jeunes gothiques. Et ça doit vraiment nous interpeller en tant qu'enseignants. Moi, je suis enseignant, en tant que parent, parce que c'est vraiment le vecteur de la culture de mort qui risque vraiment de nous faire perdre tout repère. Enfin, en tout cas aux jeunes. Voilà.
Revenons, Jeanne Smith, si vous le voulez bien, sur cette fameuse loi donc de protection de l'enfance qui semble vouloir mettre sous la coupe de l'État les parents en tant que parent.
Alors oui, il y a beaucoup d'aspects dans cette loi. Alors le premier aspect, c'est que le parent y est considéré comme un danger potentiel pour ses enfants, et on met en place tout un réseau. Alors ça, c'est une loi Sarkozy, il faut bien le dire, hein, une loi Sarkozy, une loi qui est soutenue par tout son gouvernement. C'est une loi qui, à la faveur là d'un fait divers où une famille avait très maltraité ses 5 enfants, eh bien ces affaires n'avaient pas été signalées aux services sociaux de l'enfance. Eh bien à partir de maintenant, et comme en Angleterre d'ailleurs, c'est une même logique de surveillance qui se met en place, on autorise les dossiers à circuler, on autorise et on demande à toutes les personnes qui sont en lien avec des enfants de regarder s'il n'y a pas un danger de menace de risque pour l'enfant et non pas s'il y a des enfants maltraités. Et dès lors que l'on soupçonne un danger de menace de risque pour l'enfant, eh bien on va le signaler et on va le mettre en fichier. Et les uns et les autres, parmi les services sociaux, vont pouvoir regarder tout ça. Je crois que c'est déjà une négation du droit des parents, qui sont quand même ceux qui aiment leurs enfants. Alors bien sûr, il y a des cas où il faut intervenir, mais dans l'ensemble, ce sont quand même les parents qui savent ce qui est le mieux pour leurs enfants, et c'est eux qui ont le droit, la charge, la responsabilité, le devoir de les élever. Eh bien, la loi de protection de l'enfance est en train de contester ce droit.
Cette loi, je crois, va beaucoup plus loin.
Elle va beaucoup plus loin.
Elle oblige même les femmes enceintes à aller voir des personnes référencées pour avoir des entretiens, pour savoir si psychologiquement la mère est capable d'être mère. Est-ce bien cela ?
C'est bien cela. Sous couleur d'aider les personnes, les familles qui sont effectivement dans un état de déshérence totale, mais ça n'est pas forcément de leur faute, il faut bien le dire, et c'est aussi la faute à la culture de mort ambiante, eh bien, on va imposer dans le cadre de cette loi un entretien psychologique aux femmes enceintes de moins de 3 mois. Alors, moi, je ne sais pas sur quoi ça va déboucher, mais ça va certainement déboucher sur un certain nombre d'avortements, où l'on conseillera aux femmes qui ne sont pas capables d'élever un enfant, bien de l'éliminer. Ça n'est pas dit, mais on peut le supposer. Il y aura des entretiens psychologiques après la naissance, avec les parents, une fois de plus, vérification, est-ce que les enfants vont bien être élevés dans un milieu conforme. On prévoit des entretiens psychologiques encore pour les enfants de 3 ans, les enfants de 6 ans, les enfants de 11 ans. Eh bien, pour l'instant, en tout cas, et c'est encore heureux, on pourra apporter un certificat disant qu'un médecin a vu l'enfant, mais on a quand même une psychologisation du suivi de l'enfant qui déjà commet des ravages, parce que l'on sait très bien qu'avec les méthodes d'enseignement actuelles, il y a des enfants qui sont en difficulté à l'école. Eh bien, on a tôt fait de les envoyer dans des structures spécialisées. Là, il y a une abondante littérature, je crois qu'il faut se tenir informé de tout cela.
Oui, je crois qu'on est là, Jeanne, dans le vieux processus totalitaire. Alors, il est particulièrement dramatique que, dans le sous des apparences de libéralisme, le libéralisme, on sait en quoi il est mauvais sur le plan, mais enfin, il peut être bon dans l'ordre économique, je ne vais pas entamer le débat, mais sous des apparences libères, on dira, le projet totalitaire avec un monsieur Sarkozy continue. Quel est le projet totalitaire ? C'est finalement prendre l'homme à la naissance, quand on le laisse naître, et ne le lâcher qu'à la mort. Hein ? Donc, alors, c'est plus habile qu'avec les régimes du XXe siècle, hein ? C'est plus habile qu'avec le nazisme, c'est plus habile qu'avec le communisme dans la première mouture, mais ça revient à cela. C'est orgueil de l'homme, de s'ériger donc en contrôleur, de gérer la société, alors que nul ne doit se substituer quand même à l'ordre naturel des choses, qui est celui de la famille. L'État n'est pas là, l'État n'est là que pour assurer des libertés, que pour assurer la sécurité, il n'est pas là pour s'occuper de ce qu'il y a de plus intime dans l'homme. C'est le grand projet totalitaire qui est là, se bat son plein avec des députés qui se croient de droite.
Et oui, et qui se présentent comme étant de droite et qui, à mon avis, ne s'y croient pas du tout.
Oui, Jeanne, à la faveur de cette loi, on restreint, je crois, en plus la liberté de l'école.
Oui, la liberté d'instruire ses enfants. À l'heure actuelle, il existe une obligation d'instruction de 6 à 16 ans, que d'ailleurs Ségolène Royal voudrait étendre à 3 à 16 ans, ce qui est quand même extraordinaire, forcer les petits-enfants à aller à l'école à 3 ans.
Mais c'est toujours Jean-Jacques Rousseau.
C'est Jean-Jacques Rousseau, mais ce sont aussi les proches de Sarkozy qui veulent développer l'accueil scolaire des enfants de 2 ans, alors qu'on sait que c'est catastrophique.
Mais les Mao qui se rallient à Sarkozy, les anciens Mao, ils restent totalitaires au fond d'eux-mêmes.
Mais bien sûr. Alors, ce qui se vote demain, hélas, c'est à mon avis très grave. À l'heure actuelle, vous le savez, on peut faire de l'instruction à domicile et on peut même s'associer à plusieurs afin de créer des pré-écoles hors contrat. Eh bien, un amendement qui est voté dans le cadre de la loi de protection de l'enfance, mais à la suite du rapport anti-secte, veut restreindre sévèrement cette liberté en limitant à une famille le droit d'instruire à la maison. Et je crois qu'il faut s'élever avec la plus grande vigueur contre cet amendement, parce que même si on peut imaginer qu'on va pouvoir composer, qu'on va quand même pouvoir conserver les petites écoles familiales, il faut espérer que ça puisse se faire sous la forme de préceptorat, eh bien c'est une atteinte directe contre le droit des familles. Je vous renvoie à mon blog, qui est le blog de Jeanne Smith, où j'ai passé un certain nombre d'articles là-dessus. Dans présent également, nous avons publié les échanges sénatoriaux qui ont restreint la liberté d'enseigner à la maison à une famille pour ses propres enfants. Là, on a entendu des sénateurs socialistes descendre en flammes le droit des parents de choisir une école, même le droit de les faire éduquer dans des écoles catholiques. Je crois qu'il faut suivre cette affaire d'extrêmement près. Il faut se voir qui demain à l'Assemblée nationale va élever la voix pour dénoncer cela. Je crains qu'il n'y ait pas grand monde, mais c'est une affaire à suivre d'extrêmement près.
Beaucoup de questions d'auditeurs, des auditeurs qui nous donnent beaucoup de détails sur les massacres des communistes. C'est vrai que ça ne manque pas, malheureusement. Et aussi des auditeurs qui reviennent sur ce que vous avez dit, Bernard, Anthony, sur la griffe. Alors, un auditeur nous demande quel est le thème qui sera abordé par Gérard Marin à la griffe demain.
Ah ben alors Gérard Marin, les auditeurs de Radio Courtoisie le connaissent, mais le connaissent peut-être pas assez, parce qu'il fait parler les autres avec une gentillesse très grande. Gérard est un homme merveilleux, d'une chaleur humaine exceptionnelle. Alors il a derrière lui une expérience, une vision de la presse. Il fait partie de ces grands journalistes, je crois qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, grands reporters, enfin qui avaient cet amour de leur métier. Et je voudrais, parce qu'il va être enregistré, n'est-ce pas David, dont il nous parle de sa vie de grand reporter, parce que cela est très important, surtout pour les jeunes, qu'il y ait comme ça de la transmission et puis son regard critique sur ce métier qu'il aime passionnément.
Alors, d'autres auditeurs nous demandent comment est-ce que l'on écrit la griffe, ce que ça veut dire, et qui nous demandent aussi comment fait-on pour y adhérer, donc on va
alors, dire. J'y reviens. La griffe, c'est l'alliance générale contre le racisme et pour le respect de l'identité française et chrétienne. La griffe est la seule organisation dont à défendre les chrétiens, quelle que soit leur race, et les français, quelle que soit d'ailleurs leur religion. Voilà. Parce que nous ne faisons pas de l'antiracisme sélectif, mais surtout, nous défendons ceux dont les autres soi-disant associations antiracistes ne se préoccupaient pas, c'est-à-dire le racisme anti-français et le racisme anti-chrétien.
Alors, pour l'auditeur qui nous le demande, c'est donc à la griffe, A-G-R-I-F.
Oui, ça veut dire, c'est l'intitulé. Et puis, nous avons un bulletin trimestriel, une revue trimestrielle qui s'appelle La Griffe. On comprend bien la symbolique de la chose.
Oui, mais pour ceux qui veulent faire des chèques, c'est la griffe, A-G-R-I-F, ah ben, il y a 10 euros.
Voilà.
Et c'est donc...
Voilà. Et 10 euros, et c'est 10 plus 10 si on veut recevoir le bulletin.
Oui. Alors justement, un auditeur nous demande si l'adhésion à la griffe permet des réductions fiscales.
Écoutez, s'il s'agit de 10 euros, je pense que oui, s'il s'agit de 10 euros, je doute un peu, mais pour ce qui est des dons, oui, bien entendu, et nous envoyons un reçu fiscal.
C'est ça, donc pour l'adhésion, c'est 10 euros, je pense que tout le monde peut faire ça, et quand vous voulez faire un don plus important à la griffe,
parce qu'il faut le dire, nous n'arrivons avons à vivre, je tiens à le dire ici, la DRIF, je l'ai fondée, je la préside, bien sûr, elle ne me défraie point, hein, j'ai toujours tenu à ce bénévolat absolu, pas plus qu'elle défraie Jeanne Smith, sa vice-présidente, ou donc d'autres membres de son bureau, mais donc il va de soi que ceux qui peuvent envoyer un peu plus de 10 euros, c'est quand même très bien.
Un auditeur nous demande, quand il y a un jugement dans une affaire où la griffe est partie civile, pouvez-vous donner le nom des juges ?
Ben, nous le faisons, quand nous le pouvons. Alors je dois dire ici que la griffe, donc, existerait difficilement pour la mémoire de ce qu'elle fait s'il n'y avait pas le quotidien présent. Hein. Donc là, il y a une complémentarité qui est naturelle, hein, en toute indépendance. La griffe, c'est pas présent, présent, c'est pas la griffe. Mais enfin, bon, moi je suis un des fondateurs de Présent et je suis heureux d'avoir vu le bébé grandir, de le voir entre les mains très maternelles aujourd'hui de Jeanne Smith, mais dont nous avons entre nous une bonne synergie, une bonne complémentarité. La DRIF bénéficie beaucoup de l'audience que lui donne Présent et je dois dire que Jeanne Smith, qui est vice-présidente de la DRIF, est la meilleure commentatrice judiciaire qui soit aujourd'hui. Alors quand on veut savoir ce qu'il y en est des procès de la DRIF, eh bien il faut lire Présent, parce que Présent en quantité c'est pas très important, parce que ça n'est pas le Figaro, ça n'est pas le Monde, il n'y a pas pour cela la pointe des grandes banques qui permettent à la Libération de survivre, hein, que de choses à dire sur le sujet aussi, hein, le journal du maoïste Julie renfloué par la banque Rothschild, mais cela n'étonne que les ignorants. Présent n'est renfloué par aucune banque, n'est-ce pas Jeanne ?
Eh bien si c'est le cas, je l'ignore.
Vous l'ignorez.
Et je le regrette d'ailleurs un peu.
De mon temps, en tout cas, quand je le gérais, je puis dire que c'était pas brillant. Voilà. Alors, je le dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui ont raison de soutenir Radio Courtoisie, raison de soutenir le libre journal de Serge de Beketch, ils ont raison aussi de soutenir la DRIF est présent.
Alors, vous venez de nous dire, Jeanne, combien, en fait, ces lois qui sont actuellement adoptées sous un gouvernement dit de droite devaient à l'intervention de M. Sarkozy. Et moi, je voudrais aussi revenir sur une affaire, et c'est l'affaire des lycées, du lycée des écoles islamiques de Lyon. Il y a un recteur d'académie qui, depuis plusieurs mois maintenant, se bat pour empêcher l'ouverture de cette école. Et nous avons entendu récemment à la radio le recteur dire qu'il avait été convoqué par le ministre de l'Intérieur et qu'il avait subi en quelque sorte une séance d'intimidation. Et donc nous sommes là avec un gouvernement complice et qui ne voit pas en quoi l'islam est une menace pour notre identité, et qui même promeut cet islam et essaie sans arrêt de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui résistent. Et Bernard, je me tourne vers vous, parce que vous étudiez cette question, vous avez sorti un livre, L'islam sans complaisance.
L'islam sans complaisance, on peut le commander pour 30 euros franco de port à la DRIF, 70 boulevard Saint-Germain.
Oui, et je crois que dans ce livre, vous en profitez aussi pour dénoncer cette complicité de...
Oui, parce encore une fois, mais ça n'est pas le sujet de notre émission, mais ça sera le sujet d'un colloque organisé par notre ami Richard Haddad, qui aura lieu le 31 mars, dans qu'est-ce que l'État doit faire face donc au réchauffement islamique de la planète. Le réchauffement islamique de la planète, donc en effet, là, dans le respect de la religion, dans le respect des individus, des personnes, il y a le problème idéologique de l'islam. Hein, et ça, je ne vais pas ce soir en parler. J'avais cité la semaine dernière la façon dont Napoléon avait abordé avec les Juifs. Et tiens, j'avais une auditrice, et je ne sais pas si elle est là ce soir, qui m'a envoyé des messages niant ce que je disais. Alors, chère madame, j'ai étudié avec mes meilleurs amis juifs ce que vous disiez. Ils m'ont bien donné raison. Napoléon avait convoqué un Sanhédrin. Cela est dans Dubnov, le grand historien juif. Il l'a de là parrainé le consistoire. Tout ce que je vous ai dit, chère madame, est parfaitement vrai. Vous aviez vous me disiez qu'on ne vous apprenait pas cela dans votre synagogue. Je ne sais pas quelle synagogue vous fréquentez, mais enfin, je vous conseille, moi, de lire la petite histoire résumée du judaïsme français de Dubnov. Voilà au passage. Alors, face à l'islam, eh bien, c'est pareil. Moi, je souhaiterais donc un certain nombre de mesures d'État. Par exemple, puisqu'aujourd'hui, donc il y a, comment dirais-je, un droit, on pourrait en discuter beaucoup, d'ingérence qui est communément admis. Pourquoi les musulmans, les dirigeants musulmans en France, qui mettent en avant le concept d'Oumma, c'est-à-dire la communauté mondiale de l'islam, eh bien, ne s'occupent-ils pas aussi de faire que dans les pays où l'islam est majoritaire, les non-musulmans aient les mêmes droits que les musulmans en France? Voilà, par exemple, un engagement qu'on pourrait leur demander. Il y a comme cela un certain nombre d'engagements. Alors, c'est le débat, hein, et nous y reviendrons. Ce n'est pas l'objet de cette émission ce soir. Je souhaiterais, on le trouvera sur mon blog, que les candidats ou le candidat à la présidence de la République pour lequel je vais voter aille un peu plus loin dans cette voie.
Alors, un auditeur revient sur le projet de loi sur la protection de l'enfance. Il nous dit, ce projet de loi ressemble aux méthodes soviétiques.
Oui.
Pourquoi les familles ne descendent-elles pas dans la rue, comme en 1984 pour l'école libre?
Bonne question, mais parce qu'il faut que des gens les appellent à descendre dans la rue, avec des moyens. Et là, hélas, Jeanne veut parler, je lui laisse le micro. Nous avons, nous, une voix trop faible. Nous étions dans la rue à Nice dernièrement. Bon, c'est bien, on était quelques centaines, mais il aurait été beaucoup mieux d'être plusieurs milliers. Donc là, il faudrait des grandes voix pour réagir comme cela. Et là, je renvoie, est-ce que l'on va avoir des gens aussi courageux que le rabbin de Lyon? Est-ce qu'on va avoir des évêques? Est-ce qu'on va avoir dans tous ceux qui croient la loi naturelle pour appeler à descendre dans la rue? Nous y sommes prêts.
Et moi, je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est qu'il est extrêmement difficile de faire circuler l'information. J'ai eu la surprise en assistant aux 30 ans de la paroisse Saint-Nicolas rendu à la tradition samedi dernier, de voir tout un tas de gens qui n'étaient pas au courant, alors que ça circule quand même sur énormément de sites internet, y compris le Salon Beige, Vox Gallier et autres. Ces informations circulent. Et puis il y a un deuxième aspect des choses, c'est que ces lois sont très habilement présentées quand même, toujours en partant d'un fait divers concret qui choque l'opinion. Et donc, pour faire admettre que ces lois qui d'apparence sont là pour protéger nos enfants, pour admettre qu'elles soient nocives, eh bien, il faut se lever de bonne heure. Il faut faire de l'argumentation, il faut faire de l'explication, et ça, c'est très difficile. C'est très difficile d'atteindre, eh bien, la masse des gens. Est-ce que, Bernard, vous voulez que nous passions au rendez-vous? Je vais en dresser la petite liste, si vous voulez bien, Bernard-Anthony. Le premier rendez-vous vous concerne, puisque vous répondez aux questions des liseurs du Forum catholique. Je dis liseurs à dessein, c'est un néologisme qui appartient au forumcatholique.org, et bon, c'est leur langage. C'est un forum qui fonctionne très bien, qui a beaucoup d'audience. Et là, demain, entre 18h30 et 22h, vous allez répondre en direct aux questions des internautes.
Et oui, c'est une embuscade, mais je ne peux pas m'en défaire, ça m'ennuie, parce que je n'écouterai que l'enregistrement de la causerie de Gérard Marin. Je serai dans une pièce à côté, il me pardonnera, il a tellement un grand cœur, et puis comme il va être enregistré et filmé, ça ne sera que partie remise. Mais effectivement, je vais donc essayer de répondre vite et bien à toutes ces questions.
Et en direct et en toute liberté, c'est un rendez-vous que je connais, il est intéressant. Ce sera donc demain sur www.leforumcatholique.org, et on retrouvera Bernard Anthony. Deuxième rendez-vous, ce sont les 25 ans de présent. Là, je me mets en avant pour cette occasion. Mets en avant le journal qui fête ses 25 ans. Il y aura, j'espère, tous ses fondateurs encore en vie, dont vous, Bernard.
Si je suis encore en vie, je serai là.
Il y aura,
nul ne sait.
Nous serons autour de Jean Madiran, notamment. Cette grande fête se tiendra grâce à l'accueil du propriétaire de Grand Maison à Villepreux, cela se tiendra dans ce merveilleux cadre. Il y aura une messe, puisque ce sera le dimanche de la Passion. Il y aura un déjeuner, banquet, et on peut s'inscrire dès à présent. Donc vous passez un petit coup de fil à présent, même si vous n'êtes pas abonné à présent. En vous acquittant du prix de l'inscription, qui est relativement élevé, mais nous faisons un déjeuner, et en région parisienne, c'est difficile de faire moins. Ça vaudra donc 42 € par personne, mais nous offrons à tous les inscrits à ce banquet un abonnement de 3 mois sur Internet, donc présent sur Internet tous les jours chez vous. C'est une valeur de 50 €, donc en fait, en venant, vous gagnez 8 €, c'est incroyable. Donc vous venez, vous vous inscrivez, vous avez droit à un abonnement gratuit, vous déjeunez avec nous, il y aura des toasts, il y aura cette amitié, cette ambiance d'amitié française dont vous aussi, Bernard, Anthony, vous êtes spécialiste, et je crois que ce sera un grand événement. Il faut absolument, je crois, que nous nous serrions les coudes. J'espère qu'il y aura d'autres directeurs de la presse nationale. C'est un rendez-vous important. Donc le 25 mars, à Villepreux, les 25 ans de présent, vous téléphonez à présent au 01 42 97 51 30. Je redonne ce numéro, 01 42 97 51 30, ou vous écrivez 5 rue d'Amboise, 75 0002 Paris. C'est 42 € et vous êtes abonné à présent pour 3 mois, ou vous offrez cet abonnement à quelqu'un de votre choix. Je vous signale également le 17 mars, un concert de carême des petits chanteurs de Saint-Louis de Paris. Ils vont chanter le Stabat Mater de Pergolèse, un Summite Psalmum de Schütz, une cantate de Bach, le Laudate Pueri de Buxtehude. On est dans la défense de la culture, on est dans le temps liturgique. C'est le samedi 17 mars à Sainte-Clotilde. L'accueil est ouvert dès 20h et ce sera un concert de petits chanteurs qui ont une voix très naturelle, très jolie. Je les mets un petit peu en avant parce que j'y ai des attaches familiales, disons. Nous signalons une fois de plus le rendez-vous de Richard Haddad autour de l'islam. C'est à la salle de l'ACIEM, oui, rue Albert de Laparent. Vous confirmez la date du 31 mars, Bernard ?
Je confirme la date du
31 mars,
c'est un jeudi, c'est ça?
Non,
c'est un samedi.
C'est un samedi.
C'est un samedi soir.
C'est un samedi toute la journée.
C'est un samedi
toute la journée, mais nous allons en reparler, nous allons donner de l'importance à ce colloque, parce que je crois qu'il peut être utile au moins à un candidat à la présidence de la République.
La date est la bonne, et David Fonté, je ne sais pas ce qui vous arrive ce soir, mais le 31 mars, c'est bien un samedi.
Ah voilà,
On fera de la pub de toute façon partout.
Rue Albert de Laparent, 75 007 Paris.
C'est impossible de la rater, cette conférence.
Un coup de gueule, Bernard, parce qu'on a commencé par un coup de gueule, alors il faut aussi l'émission progresse.
Oui, j'en ai un à propos donc
de la libération
de Philippe Bidart. Bon, effectivement,
il a été libéré après
Philippe Bidart a été libéré après plusieurs années de prison et il a été donc inséré à Béziers dans une structure pour s'occuper, pour être un animateur social. Bon, à sa sortie de prison, il a fait des déclarations à nouveau sur la situation tragique du Pays Basque. Alors moi j'ai deux commentaires à faire. Le premier, c'est que tout de même cet homme-là a tué. Il a tué deux gendarmes, il a tué un CRS. Et puis, on ne libère pas quelqu'un qui n'a pas tué. Au même moment, en ce moment même plutôt, il y a toujours en prison quelqu'un qui s'appelle Michel Lajoie. Michel Lajoie, donc, a commis l'acte malheureux de placer une bonbon de gaz dans un café à Saint-Nazaire il y a très très longtemps, un café qui était fréquenté par des Turcs. Donc Michel Lajoie a commis un acte de racisme anti-turc qui n'a pas fait une égratignure. Son acte était condamnable, répréhensible, mais enfin il a tout de même payé maintenant. Alors quand j'entends Miller ce matin dire que les gens d'Action Directe, bon, ils ont quand même assez payé, et Lajoie il n'a pas assez payé, parce que lui, il a tué ni CRS ni gendarme. Et puis enfin, deuxième point, je laisse la parole à David. Ensuite, nous avons quelques minutes encore. Donc, Bidart décrit comme c'est les fous qui sont dans le terrorisme basque, un pays basque qui serait opprimé par la France. Enfin, il se trouve que, on le sait, je suis des 3B. Je suis un mélange, je suis essentiellement un Bigourdan, un peu de sang béarnais, un peu de sang basque. Enfin, ce sont les pays de mon enfance et chez moi, enfin, le pays basque opprimé par le colonialisme français. Mais enfin, on rêve. Non, c'est de la folie furieuse. Alors, cet homme-là, s'exprime lui aussi, comme tous les gauchos, Mao, Trotskar que j'entendais, c'est devenu un héros. Ben non, pour moi ce n'est pas un héros, c'est un assassin, mais en revanche, je crois que ceux qui l'ont pas tué, quand même, au bout de la durée de prison des années incompressibles, il faudrait qu'on les libère, et je me prononce donc ce soir pour que l'on puisse, lorsqu'il sortira de prison, aider Michel Lajoie.
Oui, il faudrait vraiment élargir que Michel Lajoie soit élargi. Michel Lajoie n'a pas de sang sur les mains. Michel Lajoie, c'est vrai, a fait quelque chose de terrible il y a 20 ans qui aurait pu tuer.
La bombe on m'écrit que c'était pas Saint-Nazaire, c'était à Rouen.
Oui, c'était à Rouen. Bon, c'est vrai que ça aurait pu être terrible, mais Michel Lajoie est passé deux fois devant la cour d'appel et en vertu de la loi Perben 2, donc une loi qui a été votée 15 ans après sa condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie donc d'une peine incompressible de 19 ans, eh bien régulièrement, la LICRA s'oppose à la libération de Michel Lajoie. Michel Lajoie a le droit de penser ce qu'il veut, on est au pays des droits de l'homme. Mais il est vrai que la non-libération de Michel Lajoie est strictement politique. En France, au pays des droits de l'homme, il vaut mieux effectivement avoir tué, être un ancien terroriste d'extrême gauche, plutôt que d'avoir mis un gros pétard en ayant été coquiné avec les ligues d'extrême droite. Voilà, c'est à peu près ça.
Bon, on a tellement d'autres sujets à aborder ce soir. Peut-être, Bernard, je crois que vous êtes allé au cinéma. Et vous êtes allé voir le film tant décrié de Mel Gibson, Apocalypto.
Oui, il est vrai, Cécile, que nous ne parlons pas assez de la réplique cinématographique. Il faudra y venir, mais tellement de sujets. Alors, j'ai été voir ce film parce que maintenant, évidemment, le cinématographiquement correct donc attaque Mel Gibson, parce qu'il a fait ce film immense qu'est La Passion du Christ, en réplique à tant d'abominations sur le sujet. Alors, je suis allé voir...
Apocalypto,
et c'est un très beau film. C'est un très beau film. Moi, j'aime ça. Il y a de la couleur, il y a de l'image, il y a de la course dans la forêt, et il y a la vérité qu'on oublie de rappeler sur ce qu'étaient quand même les civilisations, entre guillemets, mayas. C'était des civilisations de sacrifice humain. Alors, bien sûr, les mayas n'étaient point seuls, mais enfin, Jacques Soustel, le grand ethnologue qui connaissait admirablement ces civilisations, avait montré que ce n'était pas celle du bon sauvage. Le bon sauvage n'existait que dans les rêveries de Jean-Jacques Rousseau. C'était des civilisations abominables. Alors il est de bon ton aujourd'hui de cracher toujours sur l'homme européen, sur le conquistador. Alors les conquistadors n'étaient pas des agneaux. D'ailleurs, ils n'auraient pas pu conquérir à 150 tout un continent si ils avaient été des agneaux. Mais s'ils sont arrivés tout de même à conquérir cette Amérique du Sud. D'ailleurs, les Espagnols, faut-il le dire, n'ont pas massacré en Amérique du Sud, ni les Portugais. À la différence, quand même, un tout petit peu de la colonisation anglaise. Bon, mais enfin, c'est que c'était affolant. C'était une civilisation satanique. Il y avait des jours où l'on allait jusqu'à donc sacrifier 20 000 victimes ou prisonniers. Alors, on dit que ce film-là est violent. Mais enfin, on rêve. On voit à la télévision des abominations, de la perversion sadique sans arrêt. Je suis tenu par mon métier, si je puis dire, de regarder quelquefois. Et alors on trouve que c'est violent parce que dans ce film-là, on voit effectivement ce qu'était la réalité des prisonniers qui étaient amenés. Ils étaient donc ensuite poignardés, on leur arrachait le cœur et puis on les décapitait. Mais il n'y a rien qui soit insoutenable. C'est tout simplement les sacrifices qui étaient menés dans cette culture maya, chez les Aztèques aussi d'ailleurs. Et encore une fois, je trouve que c'est un beau film, plein d'humanité d'ailleurs, parce qu'il n'y a absolument pas de mépris pour la personne des Mayas. Les héros du film sont d'ailleurs de ces malheureux Mayas qui veulent échapper donc à l'enfer sacrificiel de leur civilisation. C'est un très beau travail historique.
Mel Gibson, d'ailleurs, a déclaré que...
Voilà. Alors... Je crois qu'on va, on va dire au revoir à nos auditeurs. On nous fait signe qu'il nous reste plus de temps. Donc, on va...
Voilà. Bon, ben, écoutez, le temps a passé. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, merci. Et à très bientôt pour une prochaine émission.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.com. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, diffusé en direct mercredi 21 février 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 22 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle.